Non mais vous me calmez cette speakerine, qu'elle se mette un peu en place. Donc voilà, juste une chose qui est relativement importante à signaler, c'est que la programmation musicale hors émission est réalisée par Du Sport, qui le fait bien évidemment bénévolement et qui bénéficie pour cela de toute la sonothèque de la radio. Et là, il nous a fait plaisir. Alors l'ordinateur m'indique Sam Little Girl. Est-ce que ça ressemble à ça, du son?
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est Van Morrison.
Oh, cool. About how it used to be. And miles of golden sand. Oh, Crazy Girl, tu y vas?
C'est la voix écoute...
Mais oui, mais si tu parles en même temps, on va pas y arriver. Hein. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 27 avril 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h, toujours du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Janet Dead. Et à 17h, FMR 7 l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la série policière que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Alors qu'il y a un autre hommage, parce que Franco est aussi un fin cinéphile, qui est un hommage aux chasses du comte Zaroff. Et encore une fois, c'est un film solaire, sauf que là, c'est la comtesse perverse, hein, voilà, c'est Alice Arnaud qui galope toute nue dans la pampa avec son arc et ses flèches, et voilà, qui galope après des hommes qu'elle capture et qu'elle dévore. C'est une histoire aussi de cannibalisme.
Alors pour paraphraser Du Sport qui cite souvent cette phrase-là, à l'époque c'était que du naturel pour le...
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Critch.
Et la participation exceptionnelle du JP.
Qu'est-ce qui se passe?
Et malheureusement, ceux qui nous écoutent, non pas en direct, mais en podcast, ont eu une très mauvaise surprise pendant les deux dernières émissions, qui, quand même, on peut se jeter des fleurs, étaient plutôt de très bonne tenue, avaient des invités qui étaient quand même de qualité, et on a eu des interventions, des chroniques qui étaient franchement très très bien, avec une super ambiance. Malheureusement, on a été trahis par la technique. Je rappelle qu'on est une radio associative, Radio FMR.
Elle a bon dos, la technique.
Est une radio alternative, c'est-à-dire que des fois, ça marche, et des fois, ça marche pas. Et là, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, nos enregistrements, je lance en fait un enregistrement chez moi, et deux fois les enregistrements plantés n'ont pas été utilisables. On a basculé sur un enregistrement de secours. C'est un enregistrement légal. On l'appelle ici d'ailleurs le CSA d'ailleurs. Il est fait pour ça, voilà. Et malheureusement, on ne contrôle jamais le son de cet enregistreur. Il se trouvait que le son était pourri. Et donc, c'est pour ça que ceux qui nous ont écoutés en podcast ont eu un son qui était à la limite de l'audible par moment. Et voilà, donc nous a bien fait chier.
Cette explication, tu devrais l'enregistrer et la remettre toutes les semaines, parce que tu nous as fait la même la semaine dernière quand même.
Alors non, parce que cette fois-ci, il y a l'enregistreur à la maison, il y a un enregistreur...
Il y a des variantes.
Il y a le même script qui enregistre ici. Il y a un enregistreur Marantz Wave qui est en train de tourner. Il y a un enregistreur mini disque. Il y a un enregistreur cassette. Et il y a la sortie de la console Audacity qui est en train de tourner.
On a loué un script qui est en train de tout noter là. D'ailleurs, il n'en peut plus là. Alors, Gérard, ce qui serait intéressant.
Alors, justement, à propos de script, tu peux sortir ton ordinateur et je vais te dicter la ligne de commande. Donc, mplayer, http://91.121.134.23.8000/radio-fmr.mp3/-dumpstrip-dumpfile-live-mp3.
T'as vu les matchs cette semaine?
Ouais, j'ai vu. Non, je les écoutais à la radio.
Ah, ok.
J'en croyais pas à mes oreilles.
T'as pas Canal?
Eh ben, bon samedi à tous.
Eh, moi j'ai Canal et je vous en. Pardon. Bref, tout ça pour dire. J'espère que cette fois-ci, on aura un son un peu de meilleure qualité. Et en tout cas, on aura pris assez de précautions pour que ça fonctionne vraiment. Alors, on a vraiment 8 enregistreurs qui tournent. Là.
On a un super...
Juste une petite remarque concernant tout ça. Parce que c'est vrai que tu avais commencé à le faire. Je crois que tu avais fait un billet sur ton blog où tu avais, sur un fichier son, expliqué comment fabriquer le supplément week-end, les conf-calls au téléphone avant l'émission, etc. Ouais. Mais ça, ce serait pas mal parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui
sont
rajoutées.
C'est pas un 200e, oui.
Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées depuis, dont notamment que, amis auditeurs, vous qui pensez que notre journée s'achève après à 13h30 quand on passe le relais à du sport, mais pas du tout. Parce qu'après, on fait un débriefing de l'émission pendant qu'on mange ensemble. Ensuite, Xavier, au moment de faire la sieste, s'aperçoit que l'enregistreur n'a pas marché, donc il ne dort pas. Il recourt à l'émission dans les locaux d'FMR pour essayer de récupérer les restes de la boîte noire. Donc oui, et ensuite, il faut qu'il publie le billet sur le site officiel de l'émission. Donc sachez que notre travail ne s'arrête pas avant 18h. Donc ce serait bien de faire tout ce topo.
Envoyez vos dons.
Ouais.
Oui, tout à fait. Et puisqu'on nous demande sur les réseaux sociaux un lien, bordel, eh ben je le donnerai tout à l'heure pendant l'interview. On a une émission qui est assez lourde aujourd'hui, qui est assez costaud.
Elle va être relou.
Relou même.
Oh, relou. puisqu'on aura tout à l'heure La Paire et Guérin qui, donc, pour City Hall, donc, troisième tome est sorti chez Ankama. On a aussi pas mal de BD, puisqu'on avait du retard. On a aussi de la SF qui cartonne et tout ça.
On a un film aussi.
Sous les marmottes, en balance de chocolat. Voilà, oui, c'était un vieille intro, ça, du supplément week-end. Mais ça me faisait plaisir, puisque, voilà, je me suis trompé, j'ai pris le mot EPC. Donc on a une autre prog musicale aujourd'hui. Oui, je sais, c'est un petit peu difficile.
Il faudra mettre dans ton topo. Bon, là, Xavier s'est trompé.
Voilà. Message de soutien, bien sûr, sur nos comptes Twitter, Facebook, Overblog, Google Plus et aussi sur le blog de MySpace.
Ça existe encore, ça ?
Non.
Oui. Si, c'est Justin Timberlake qui est derrière.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
SoundCloud. Sur SoundCloud,
exactement. Ah oui, vous tiens, ça serait une bonne idée.
Mieux, ouais. C'est mieux. C'est très bien SoundCloud.
Et Blogspot, ouais. Puisque du sport a un blog sur Blogspot.
Oui, tout à fait.
Et d'autres tirs.
Bref.
Bon, bref, c'est vrai.
Ah bah oui.
Oui.
Donc, à fait. Ouais.
On y va sur la revue de presse, peut-être.
Je pense que c'était l'intro la plus confuse qu'on ait jamais faite.
Je pense qu'il y a eu pire quand même. Oui. Il y a eu des fois où on a débarqué avec à la moi, dernière la minute et tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'est-ce qu'il y a cette semaine en kiosque.
Oui, fais-nous rêver.
Eh ben, ma foi, je vais commencer avec un truc qui est sorti il y a une semaine déjà, il y a 10 jours. C'est le Spirou numéro 3914e, daté du 17 avril 2013. C'est les 75 ans donc de Spirou en kiosque, 2,90€. À noter qu'ils jouent sur la confusion. En fait, ils ont demandé à plein de dessinateurs de faire une aventure de Spirou en 3-4 pages, etc. Il y en a qui ont joué sur la confusion par le fait que c'est aussi l'anniversaire de Superman qui fête aussi ses 75 ans. Ils ont pratiquement le même âge.
Il ne les fait pas.
Voilà, et c'est exactement la même chose que pour Superman, c'est-à-dire que finalement, peu importe le personnage, ce qu'il est, son vécu, etc., c'est ce que l'on peut chacun en faire à sa sauce. Donc il y a ceux qui le reprennent manière groom de moustique, il y en a qui le prennent manière adolescent, ce qui avait été fait par Tom et Jean-Ry dans Machine qui rêve, qui avait été des cris d'orfraie à l'époque, hein, chez Dupuis. Là, il y a deux auteurs qui ont dit oh, on va le reprendre de la même manière, dont Danny. Quand même.
Danny des nanas à poil.
Ouais.
D'accord.
Qui est à peu près le même âge que Spirou d'ailleurs. Il y a plein de choses dedans. C'est vraiment un numéro de l'hebdomadaire qui fait plaisir, qui est intéressant, qui est encore disponible en kiosque. Donc franchement, je vous incite à aller le chercher. Et ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que figurez-vous que Marsup Productions, la boîte qui a été montée par Franquin pour sortir de Dupuis.
Putain, je suis con, je me demandais où est-ce que t'as planqué le magazine, il était sous mes yeux. Quoi.
Il était sous tes yeux. A été racheté par Média Participation, donc c'est la boîte à qui appartient notamment Dupuis, ce qui veut dire que le Marsupilami fait un nouveau parti des aventures de Spirou. C'était le... On le voit en plein milieu. Voilà, il y a le Marsupilami. Il y a aussi une espèce de making-of au début où ils disent « Ah, est-ce que j'ai le droit d'utiliser le Marsu ?» Et le rédacteur en chef qui fait « Oui ». Donc voilà, donc ça fait partie des trucs. Si vous connaissez pas ce personnage protéiforme qui a été Spirou, franchement, ça m'étonnerait un peu, mais après tout, pourquoi pas. J'espère qu'un jour on aura en réédition, je vais dire, le Spirou manière manga, dessiné par un auteur de manga qui était plus qu'intéressant et qui était vraiment très très fun. Je vois que Thomas s'est jeté dessus et franchement c'est une explosion de couleurs, hein. T'as vraiment un peu de tout.
Tous les styles et plein de bons styles. Là t'as, bah après t'as tous les auteurs. Thébaud, Émile Bravo, Dany, bah, je suis en train de regarder le truc avec de Dany. Donc, en plus, c'est
vraiment les gueules de.
Vraiment reconnaissable. Hein, de
ouais, Dany. Mais c'est vraiment la gueule qu'avaient donné Tom et Jean-Ri en fait à leur Spirou à adolescence.
Et comme par hasard, il y a beaucoup de nanas très poumonnées dans ce petit segment.
Oh,
poumonnées.
Oh, celle-là, elle est pas mal.
Oh, t'as du Zorglub, trop bien.
Ah oui, mais franchement, c'est un moment, quoi. Je me le suis pris, et c'est vrai que dans le train, ça a été le grand moment de bonheur. Ça faisait juste bizarre parce que les gens autour de moi, voilà, ils lisaient sur smartphone et moi j'étais sur la lecture papier. Voilà.
Has been.
Autre chose qui sort, alors là aussi qui était attendu depuis 15 ans, c'est un hors-série d'Animeland, donc qui est arrivé en kiosque cette semaine. Il s'agit du hors-série numéro 20 spécial intégral France 5. La fin d'une série amateur qui a vraiment marqué, qui a lancé plein d'autres séries amateurs derrière. Un double DVD donc sur cette série de Super Sentai français. Le Super Sentai, vous savez, c'est les séries où en fait tu as 5 héros et qui ces 5 héros vont sauver, je vais dire, la planète contre des extraterrestres qui viennent d'une autre dimension. C'est typiquement japonais.
Ouais,
et des
c'est
français,
surtout en espèce de pyjama moulant
en lycra.
Ouais, voilà.
En lycra,
c'est
voilà.
Genre Bioman, voilà.
Exactement. En général, t'as toujours le rouge qui est le chef de bande, le jaune qui mange trop, la rose, tu as le
bleu,
noir,
le vert, le noir.
Voilà, ils ont vraiment les couleurs ont une signification en plus et ils l'ont respecté à la lettre, c'est-à-dire que c'est un hommage plus qu'une parodie. Et donc cet Animeland vient de sortir, c'est donc le sixième tome, le sixième épisode a été bouclé, 7 ans de production, c'est quelque alors, chose, ce sera diffusé ce week-end d'ailleurs à la télévision, après une diffusion au cinéma au Max Pender à Paris.
Alors
Linder.
Oui, pardon.
Parce que Pender, c'est le cirque. Ouais. Mais à l'occasion de son interview, Alex Pilot, qui nous avait accordé, il nous avait expliqué que, parce qu'on lui avait posé la question, c'est quand qu'il y a une suite à France 5, et puis il nous avait dit, bah écoutez, on a tourné l'épisode, mais c'est vrai que ça fait tellement de mois, voire d'années, qu'on n'y a pas jeté un œil, donc ça va prendre un peu de temps de dérocher, de savoir, retrouver le storyboard, à quoi il sert ce plan déjà et tout. Alors du coup, ils s'y sont remis, sachant que Alex Pilot est toujours directeur des programmes de No Life. Hein, donc il a fallu qu'il prenne sur son temps à lui, qui n'a pas beaucoup déjà, pour finir l'épisode.
Sachant que donc le grand méchant, le grand maître de guerre d'Elexos est devenu directeur des programmes de MCM, de Game One, et il est devenu maintenant directeur à programmation musicale rock et indé français de No Life. Il y a un costumier qui entre temps a dessiné une petite fille aux cheveux roses qui s'appelle Maliki. Ça fait bizarre. Et oui, ça fait bizarre le retrouver en fait dans le making of tout jeune. Plein de choses dedans. Ce numéro d'Animeland aussi est vraiment exceptionnel parce que c'est la première fois qu'en deuxième de couve, il y a un grand vide avec marqué espace pour les dédicaces. Et ça, je trouve ça génial. C'est tout à fait mérité. La série a eu son succès au Japon puisqu'ils ont eu leur fanzine qui a été fait par des fans au Japon. Mais surtout, le mec qui chante les génériques de ce genre de série qui a dit « Je vous le fais gratos pour plaisir ». Donc c'est dans les épisodes 5 et 6. Là, je vais juste vous passer l'intro de l'épisode numéro 3. Vraiment pour le fun.
Et vous... Ah oui, juste un truc, parce que là, comme il y a Daft Punk qui ressort un nouvel album, faut savoir que les casques de Daft Punk sont, pour ceux qui débarquent un peu, qui sont des profanes, vraiment, c'est inspiré des Super Sentai, justement. Voilà.
Et d'ailleurs, ils avaient été recrutés par Sony pour faire une pub pour la PlayStation. Ils ont dit non, pas avec notre équipement. On en refait un exprès, mais hors de question qu'on lit notre truc. Sachant que tous les épisodes sont librement disponibles, copiables. Ça a été leur idée depuis le début. Et ils ont tout connu, c'est-à-dire la VHS, le DVD. Bon, ils n'oseront pas le Blu-ray, ils n'auront pas le temps. Mais du coup, maintenant, c'est bon, bah allez, hop, Internet, et puis voilà. Fait vraiment bizarre, quoi.
Mais c'est ces costumes, là, parce qu'on est en train de feuilleter. Mais c'est... Moi, quand j'étais petit, je voulais avoir les mêmes. Hein, parce que les dessins de circuit imprimé avec ces casques de motard, là, qui de Bioman, c'était... Pour moi, je trouvais ça super beau, quoi. Je ne sais pas pour vous...
Bon, tiens, alors du sport va pouvoir le montrer à ses gosses. Voilà, je vous passe l'intro.
Après avoir réduit l'univers entier en esclavage,
L'empire Lexos et à sa tête le terrible Glu Manchu projette aujourd'hui d'envahir la Terre. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait tout prévu en construisant en 1889 une tour dont l'alignement des structures reproduit de puissants totems d'exorcisme et protège ainsi notre planète de toute intrusion extraterrestre. Ne pouvant débarquer qu'en petit nombre sur le sol terrien, les Lexos vont désormais tout tenter pour détruire l'œuvre de Monsieur Eiffel. Mais quelqu'un veille sur nous.
Au sommet de la tour Eiffel, la nuit surgit une étincelle. Prêts pour le combat, ils sont toujours là, l'escadron des mousquetaires. Courage, espoir, France 5, France 5. Du plus haut du ciel, on menace nos baguettes. Nos baguettes. Plus de bons vins, plus de balles musettes. Musettes. Pour nous sauver, former le bataillon.
France 5, go!
Concorde, Concorde, Panthéon, Panthéon. Liberté, égalité, fraternité. Camembert, Camembert, saucisson, saucisson. L'heure a sonné, venez pour nous sauver, nous délivrer. Jushi Sentai, France 5.
Non, c'est sérieux, honnêtement, hein, c'est-à-dire c'est vraiment fait.
Ah mais non, nous on est à fond là.
On est à fond, c'est franchement très drôle. C'est un truc à voir premier ou second degré, on s'éclate vraiment.
Je veux la BO.
En plus, l'orchestration, c'est typiquement les séries de.
Ouais, mais après, hein. Ça a été chanté en japonais, donc c'est ça qui est gigantesque, par les pros, par ceux qui font vraiment ça. Et là où c'est franchement fun, c'est voilà quoi. C'est un truc, ça a été la série amateur qu'a lancé le Visiteur du Futur, Noob. Ils citent tous. D'ailleurs, la Flanders, on en retrouve une partie de l'équipe. Ils citent tous en fait France 5 comme étant le truc qui a franchement décollé ce genre de production amateur. Animeland donc en kiosque 15€, mais c'est mérité, donc intégrale 15... France 5.
Ah bah oui, il y a le DVD 20, dedans.
Il y a double DVD avec ouais. Les making of et tout ça, donc voilà, ça vaut. Moi je pense du sport va pouvoir le regarder, il va s'éclater avec ses gosses. Je pense qu'il y a le double sens de lecture qui te fera vraiment plaisir.
Ouais, en fait, c'est, les gamins aujourd'hui, tu leur montres ça, ouais. Ils comprennent pas trop quoi. Donc bon. Bam.
Mais si, allez. On va passer à l'interview. Ou oui. Alors non, on va peut-être faire. Pardon, j'allais oublier une news extrêmement importante, Duce.
Première nouvelle.
C'était quoi?
Dis-nous tout.
C'était quoi ça?
C'était Derrick.
Ah oui, Derrick.
Ah merde, ouais. on saute du coq à l'âne là. Hein.
Oh, c'est de la télé. C'est pareil.
Ouais, bah.
Bon, alors, qu'est-ce qui est arrivé?
Alors, Horst Tappert.
Alors, Horst Tappert, alors, j'ai pas suivi l'affaire à fond, mais bon, il apparaît que monsieur Horst Tappert a eu une enfance un peu agitée. Et qu'il a un peu menti, on va dire, sur son passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, il avait dit ouais, j'étais ambulancier. Enfin bon, ouais, neutre quoi, on va dire. Hein, ok. Mais là, il s'avère qu'en fait, on a découvert. Enfin,
il semblerait.
Un journal a sorti l'information comme quoi, ben, il avait été. Dans les Waffen SS. Là, ce n'est pas du tout la même chose.
Ah non, ouais.
Nein.
Ah là là.
Nein. Alors, il était dans les chars. Alors, ah. Il faut relativiser quand même le truc parce qu'il faudrait d'abord savoir quel est le journal allemand qui a sorti l'information.
Oui.
À mon avis, il commence par un B et il termine par un T.
Ouais.
D'accord. Ou alors, à la limite, par un S et ça termine par un L. Der Spiegel. Pour les gens qui connaissent pas.
En fait, ça. En
donc, quoi, ça relativise déjà l'information.
Pourquoi? Parce que ce sont des tabloïds ou quoi?
Oui, Bild, oui.
D'accord.
À fond, quoi.
Le générique en boucle, ça va être pesant, hein.
Il est pas en boucle, hein. C'est...
On va.
C'est le morceau en entier. C'est
on va aussi relativiser la chose en disant que bon, c'était pas forcément parce qu'il était dans les SS que le mec a massacré des populations et tout. Parce qu'il y avait quand même différentes strates à l'intérieur du corps des SS. D'accord ? Donc il y avait les clampins qui étaient là avec un flingue et puis qui étaient là pour se battre. Point à la ligne, c'est tout quoi. Et il y en avait d'autres qui étaient chargés des opérations spéciales, comme il disait quoi. Donc pourquoi sortir ça maintenant ? Pourquoi le découvrir maintenant ? Alors que bon, il y a plein d'autres gens dont on a découvert le passé quand ils étaient encore vivants. Là, bon, on a attendu un petit peu qu'il meure pour sortir l'info, quoi. Alors bon, on va mettre ça sous.
Je crois que Dascript a une annonce à
sous
faire.
Sous conditionnel, non, quoi.
Oui, vous êtes bien sûr.
Vous êtes bien sur Radio FMR et sur le supplément week-end.
Voilà, ne faites pas peur. On va passer à l'interview.
Alors, on va introduire l'interview.
C'est une info qui fait plaisir. Pour terminer sur hors sa perte, c'est une info qui fait plaisir à tous les gens ici en France qui sont des super lacombluciens quoi, et qui ont été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'en dirai pas plus.
Très bien. Sans transition.
Eh bien, oui, sans transition, nous allons à présent vous diffuser une interview que nous avions
plombé l'ambiance
que nous avions réalisée lors du dernier Toulouse Game
Show.
Bon, on y va, oui.
Alors, donc une interview BD, donc que nous avions réalisée au dernier Toulouse Game Show en décembre. C'était au Parc des Expos à Toulouse, des deux auteurs Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin, qui sont les deux auteurs responsables de la trilogie de bande dessinée. C'est un manga à la française qui s'appelle City Hall, donc dont nous avions déjà parlé dans cette émission, qui est une série BD steampunk qui est un mélange entre, on va dire, Death Note et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Ouais, pas mal.
Toi, tu avais lu le premier tome, toi.
J'avais lu le premier tome, ouais, c'était vraiment bien quoi.
T'as les deux suites qui sont ici,
magnifique.
Qui sont cachées derrière l'anime Land à côté de Morgan. Alors, on va rappeler un peu l'histoire. Donc, c'est dans l'Angleterre, la révolution industrielle, mais donc un monde parallèle où le papier en fait a disparu de la mémoire collective, puisque pour des raisons inconnues, le papier, n'importe qui pouvait écrire dessus, donnait vie à des créatures ou à des personnages.
Accident.
Accident, sauf que ça a failli précipiter le monde dans une guerre généralisée, et que afin de préserver la population, en fait, les élites ont décidé de bannir l'existence du papier et de l'effacer de la mémoire collective. Aussi, lorsque le ministre des Finances est retrouvé assassiné et que le chef de la police retrouve un papier juste à côté du cadavre, alors que normalement le papier est censé avoir disparu, il est pris de panique puisqu'il fait partie de la confidence, et il alerte aussitôt le maire de Londres. Celui-ci mandate donc l'un de ses plus fins limiers, Jules Verne, qui a un vrai talent évidemment pour l'écriture et pour créer des créatures qui s'appellent des papercuts dans cette série. Et donc celui-ci prend sous son aile un jeune et fougueux enquêteur qui est pourvu d'un sens de la déduction hors norme, qui s'appelle Arthur Conan Doyle. Et ils sont aidés par la belle, la sculpturale, la magnifique Amelia Earhart, qui vient d'un ordre.
Jennifer Hart.
Là, coupez son micro. Qui est américaine. Donc,
en fait, on s'aperçoit. En fait, Amelia Earhart est la première femme à avoir traversé l'Atlantique sur un avion. En avion.
Voilà. En avion.
Et donc, au bout de l'enquête, ils s'aperçoivent que le criminel qui a assassiné donc le ministre des Finances utilise aussi le don pour créer des monstres de papier. Et ce méchant s'appelle Lord Blackfall, dont on ne verra jamais le visage. Il est masqué. Et donc, s'ensuit donc une énorme bataille rangée entre le talent d'écriture des deux, Jules Verne et Lord Blackfall. Et dans cette série, on croise pêle-mêle plein d'auteurs, des personnages, tantôt méchants, tantôt gentils, comme Mary Shelley, Harry Houdini, Abraham Lincoln, Lovecraft ou même George Orwell. C'est ça, on voit dans la suite. Donc, dans l'interview qui va suivre, donc, ce sont les deux auteurs de ce manga à la française, City Hall, donc une trilogie. Le tome 3 vient de sortir, qui clôt un premier cycle de 3 tomes. Et les deux auteurs s'appellent Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre.
Interview réalisée lors du Toulouse Game Show le 2 décembre dernier, une fois que Thomas a coupé son téléphone, repris son souffle, changé de note et enlevé son chewing-gum.
Attends.
Allez, c'est bon. Quatrième. Première.
Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin, bonjour.
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 Alors, vous avez sorti pour l'instant 2 tomes de la série City Hall, qui est un manga à la française. Une première série au style manga dans un univers steampunk anglais, avec des personnages historiques dedans, une forte dose de fantastique. Est-ce que c'est parce que vous aviez peur que votre carrière se termine que vous avez tellement voulu en mettre à la fois?
J'hésite à répondre à la question, j'ai envie de dire oui, mais j'ai peur que ça ne me serve pas. Non, c'est pas du tout pour ça, c'est juste qu'on a eu enfin la place de mettre quelque chose, de mettre tout ce qu'on aimait à un endroit. Et l'avantage du manga, c'est la grosse pagination, et l'avantage de la grosse pagination, c'est qu'il faut la remplir à un moment donné, donc autant mettre tout ce qu'on aime dedans.
Non, mais en plus, tu sais pas écrire des histoires simples, donc c'était vraiment pas gagné dès le départ.
Avant d'être publié, est-ce que vous êtes retrouvé confronté à des refus des éditeurs devant ce projet OVNI ?
Oh oui, même que ça. Et quand, je me souviens quand je suis monté à Angoulême il y a 2 ans, on avait développé 5 projets avec Rémi, dont City Hall dedans, et au format manga déjà, dès l'état de projet. Et j'ai fait le tour de tous les éditeurs, ils nous ont dit quasiment la même chose. L'histoire est plutôt originale, le dessin fonctionne bien, mais le format manga, les gars, voilà. Il y a que Ankama qui nous a dit tendu les bras et nous a dit on le fait comme vous le voulez.
Ouais, autrement dit, en fait, tout le monde a aimé et l'histoire et le dessin, mais personne ne voulait de ce format manga. Donc l'OVNI, c'était plus sur le format que sur le projet. Et finalement, Ankama, c'est le seul à avoir tenté l'aventure avec nous, quoi.
Alors, il faut expliquer qu'à Angoulême, c'est vrai que les auteurs, les éditeurs reçoivent de jeunes auteurs prometteurs, etc. Sauf que c'est une queue qui fait bien 1 heure à 1 heure et demie d'attente. Tout ça pour être reçu 5-10 minutes grand maximum par un directeur de collection qui, en général, est pressé. Ça vous fait quoi à chaque fois quand on vous dit non, plutôt que aller les voir sur place en dehors des festivals où ils sont peut-être un peu plus avenants?
Sur le moment, on prend les conseils qu'il y a pour améliorer le projet qu'on présente. Nous, ça nous a toujours donné l'énergie, en tout cas, d'aller dans le sens de l'éditeur, parce qu'on estime qu'il sait faire son travail. Donc, du coup, on essaie de s'adapter en fonction des remarques qu'il nous fait. Mais après, ça fait jamais, bien sûr, sur le moment, ça fait jamais plaisir d'avoir un refus. Mais on essaie de revenir toujours à chaque fois avec un projet un peu meilleur qui pourrait correspondre à des attentes.
Ouais, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait de la bande dessinée, lui comme moi. Donc c'est vrai qu'on a des refus, on en a pris évidemment beaucoup plus que des validations. Et il faut vraiment saisir ça comme une opportunité de travailler, de se développer, d'aller plus loin. Et moi, la critique n'est pas toujours constructive, hein, on peut ne pas être d'accord, on n'est pas obligé de faire avec. Mais c'est plutôt conseillé. Enfin, en tout cas, la démarche, c'est vraiment de se dire j'y vais pas avec un projet qui est tout fait, tout fini et qui va être accepté direct. J'y vais avec un projet en me disant qu'éventuellement je vais avoir des choses à corriger, mais ça fait partie du jeu et on l'accepte. Et effectivement, l'éditeur a aujourd'hui un œil différent d'une autre et probablement son métier est complètement différent d'une autre aussi. Je pense qu'on peut lui faire confiance. En général, on peut leur faire confiance.
Alors, une question pour le dessinateur Guillaume. Les mangaka au Japon commencent souvent en tant qu'assistant pour se faire la main pendant des années, pour apprendre les codes, etc. Toi, direct manga, comment t'as fait pour passer outre justement tout cet apprentissage qu'ont les Japonais
Non, laisse-moi deviner, c'est une déception parce que t'es face à un auteur français qui n'a pas suivi comme ta lecture du moment, Bakuman et tout ça.
Si, justement.
Non, en fait, j'ai été assistant de moi-même sur 10 albums en franco-belge avant d'arriver au manga, donc.
Tu t'es auto-assisté, c'est bien ça, c'est un bon concept.
Et le drame, c'est que je continue à être mon propre assistant, je suis tout seul. Merci Ankama de ne pas me donner de vie.
Oui, mais c'était de la couleur avant que t'avais fait.
Non, je suis daltonien en dernier degré, moi je fais pas de couleurs, c'est ma femme Elsa Brands qui faisait les couleurs.
Ah, je me disais aussi, ça ressemble aux chemises d'Ancestral Z.
Alors, que répondez-vous à ceux qui vous traitent de suiveurs, l'étiquette qu'on met souvent pour ceux qui veulent faire du manga mais qui sont français, de ne faire que singer des codes manga sans réellement les assimiler, des critiques qui sont sorties justement sur des articles sur le premier tome?
On a eu très peu de critiques négatives en fait. Il y a eu quelques-unes qui ont été. Enfin, c'est pas des critiques négatives, c'est des gens qui n'ont pas marché simplement sur l'univers. Après, je crois que ce qu'on a lu sur internet, ce qu'il y a eu dans la presse et dans les magazines, globalement, et on est très content d'avoir ça, c'est vraiment une chance. C'est la bonne surprise, c'est le manga que personne n'attendait et qui prend sauce. Voilà.
Ouais, alors je l'avais pas vu par liste critique, c'est pas inintéressant. En fait, je crois que le débat il est toujours autour de faire du manga ou alors autour du terme manga en réalité, parce que effectivement ça désigne, ça veut dire bande dessinée, hein, donc ça désigne la bande dessinée, ok, japonaise faite par des japonais. Maintenant, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord le format. On n'est pas, oui, alors effectivement on est suiveur sur le format, mais comme beaucoup qui maintenant font de la BD, quel que soit le format qu'ils choisissent, c'est complètement assumé. On avait besoin de développer un univers et de faire ça sous un format qui nous donne de la place et dans laquelle on puisse s'éclater, avec de la place pour développer les personnages. Guillaume avait envie, de, en tant que lecteur de manga, de réaliser, on va dire, son rêve en faisant ça. Donc c'est ouais, complètement assumé, on s'en fout en fait.
Alors votre conclusion.
Tu vas avoir du mal. Hein.
Alors votre série, elle s'avère très 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 dense, tant au point de vue scénario que du dessin. Est-ce que parfois même on a l'impression vraiment d'asphyxier en fait. Voilà, il se passe toujours un truc entre chaque planche. Est-ce que vous avez été conscient de ça? Pourquoi vous n'êtes pas donné plus de moyens pour laisser respirer un peu plus?
Oui, il y a même un truc qui m'a une plage centrale en fait du tome 2 où en plein milieu il y a un immense pavé de texte. Ça m'a fait penser à un Félix de 48 dessiné par Maurice Tilleux, où il a dit plus jamais je ne ferai ça, où il a conclu toute une histoire en fait dans une page complète de texte, avec dans le coin on voit le personnage en tout petit qui termine au bout de Nit, et il a dit plus jamais ça, je préférerais à la limite l'écrire en 2-3 tomes. Est-ce que vous aussi justement vous êtes pas dit non là franchement je fais le patasse là?
Au niveau du scénario, non. Désolé, je lis pas de manga en fait. Et le seul manga, enfin le manga par lequel je suis venu à lire ça, c'est Death Note. Je pense qu'il y a bien plus à lire dans Death Note qu'il y en a dans City Hall. J'ai adoré la lecture de Death Note, donc je me suis mis aucun frein. J'ai fait comme j'en avais envie. Mais après, c'est vrai que j'ai importé une méthode de travail que j'avais dans la BD franco-belge, qui est un titre par page, donc une grande idée par page normalement. Si j'ai deux idées à mettre dans mon titre, c'est que j'ai deux pages à faire. Si j'ai pas d'idée, c'est que j'ai pas de page à faire. C'est le principe est relativement simple, et c'est vrai que l'importer sur du manga, c'est forcément ça rend le récit très très dense, parce que je me donne pas de temps pour faire de pause. Moi je suis assez content du résultat. Je peux comprendre qu'effectivement ce soit un peu déroutant et qu'il y ait beaucoup à lire. J'espère qu'une chose, c'est qu'à mon petit niveau les gens se diront j'ai lu Death Note, j'ai adoré, il y avait beaucoup à lire, et je retrouve un petit peu de ça dans City Hall.
Pour ma part, on était super conscient avec ce projet-là au format manga de partir avec des désavantages. Manga français, sur le terrain du public manga, on était complètement inconnu, puisque venant de la BD franco-belge. Si c'était pour utiliser 160 pages pour planter deux personnages devant une fenêtre en disant « cette saison, l'hiver arrive tôt » et en faisant arriver des papillons, moi ça m'intéressait pas. Donc du coup, il fallait donner à manger. Il fallait aller chercher le public et leur donner à manger. Et c'est pour cette raison-là qu'on a essayé un peu bourrer à mort le truc. Le troisième tome va être très axé sur la baston.
On est ici donc au TGS Toulouse, il y a plein de cosplayers et tout ça. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous voir en disant j'ai bien une idée de cosplay et tout le reste?
Je sais pas si on peut le dire, mais suite à mon passage à Nancy à Animest, qui est vachement mieux que le TGS, hein, je blague. Non, c'était très sympathique. Il y a des personnes qui sont en train de préparer des premiers cosplays. Ce seront les premiers cosplayers.
Ouais, et on a eu nous effectivement des informations selon lesquelles la Japan Expo, qui sera le prochain rendez-vous, gros rendez-vous en tout cas pour l'année 2013, on risque effectivement d'avoir pas mal de cosplayers autour de City Hall. En tout cas, ça intéresse les gens, donc c'est plutôt flatteur aussi. Enfin, c'est bien. Enfin, globalement, ils vont se mettre à bien s'habiller. Hein. Enfin,
normalement, t'aurais pas dû le savoir, mais là, je suis obligé de le dire devant moi. Donc, il y aura trois personnages. Enfin, je t'en parlerai après.
Alors, votre série est très centrée action, et pourtant, vous mettez en scène des écrivains. Et sans pour autant surfer sur leur œuvre, en fait. Pourquoi utiliser ces écrivains-là pour en faire des passages d'action?
Est-ce que par hasard tu es en train de suggérer que les écrivains ne sont pas des hommes d'action?
Peut-être.
Je lui expliquerai le concept d'Albert Londres et tout ça plus tard. Bernard-Henri Lévy, lui, c'est un philosophe du point, tu vois. À chaque fois qu'il a un dialogue avec un philosophe belge, le point part.
Non, blague à part, évidemment, en mettant en scène des écrivains que moi j'adore, enfin deux écrivains en particulier qui sont Jules Verne et Arthur Conan Doyle, je me doute qu'effectivement, en les balançant dans la rue, ils vont pas se mettre des gifles avec des méchants et éventuellement ils vont leur cracher au visage, mais ça s'arrêtera là, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a rajouté des personnages dans l'équipe comme Amélie Earhart, qui est un petit peu plus dynamique et compétitive, et un agent secret en l'occurrence dans l'histoire, parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse éventuellement les défendre, parce que c'est quand même deux blaireaux, on est d'accord.
Amélie Earhart qui volontairement met en avant ses deux gros flingues.
Où j'en étais? Oui, tu parlais de Death Note tout à l'heure. Est-ce que justement se placer dans le sillage de Death Note, parce que c'est pas qu'au niveau bavard, c'est aussi au niveau du papier, du livre, etc. Est-ce que justement vous avez pas eu peur d'être dans l'ombre d'une série aussi mastodonte?
Alors je vais laisser Guillaume répondre. Moi pas du tout, mais j'expliquerai pourquoi après, vas-y.
Je voudrais juste dire que Death Note se cantonne effectivement au principe écrire sur du papier. Death Note utilise le papier pour détruire, nous on utilise le papier pour créer, c'est vachement bien. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux, il y a d'autres niveaux, il y a l'humour qu'il n'y a pas dans Death Note, il y a l'aventure qu'il n'y a pas dans Death Note. Moi je suis un grand fan de Bata, hein, tout ce qu'il a fait depuis le début, et je me suis d'ailleurs vachement inspiré de Bakuman pour faire les personnages principaux, parce que j'adore cet auteur, il m'a révolutionné ma manière de dessiner. Il n'y a pas de comparaison selon moi à faire.
En fait, on a pensé.
Ça s'en sera toujours derrière.
Ça, c'est exactement ça. On a pensé, avec toute la modestie qui nous caractérise, que éventuellement. Ouais, surtout la mienne. Question d'ego, c'est une histoire compliquée. D'un ego. On a pensé peut-être bêtement que. On serait pas dans l'ombre de Death Note, on serait dans une veine complémentaire. Les gens ont trouvé leur compte avec cette histoire de papier associé à la mort. Nous, effectivement, on a inversé le thème, on a rajouté tout ce qu'on aime. Donc, voilà, des gens qui ont réellement existé. Pas mal d'humour aussi, beaucoup de messages cachés. On l'a géré comme une enquête policière qui est un peu moins torturée, peut-être poussée que celle de Death Note. Mais non, j'espère que les gens y trouveront leur compte dans les deux. Ouais.
C'est pas sympa, hein. Tu pourrais juste contenter de me paraphraser comme d'habitude. Non, là tu dis le contraire.
Oui, c'est vrai. Voilà, non, si je dis oui, c'est vrai, je dis pas le contraire du coup.
Une image des personnages de City Hall en train de faire du Gangnam Style. Qu'est-ce que...
Tu vas le répéter.
Ah, pour le Gangnam Style, voilà. Pourquoi c'est quoi ce truc?
Je vais commencer, je pense que c'est uniquement lié au toxique qu'il consomme ou à la drogue. Je ne sais pas qui l'ingère, mais je n'ai aucune explication valable.
Pas plus tard donc que la semaine dernière, j'étais donc à Nancy, à Nîmes Est, en face du stand du libraire à tout manga, il y avait un stand de geek qui diffusait plein de choses sur un écran géant, et toutes les demi-heures il passait le clip de Gangnam Style. J'avais bien évidemment entendu parler du phénomène sans avoir cliqué sur le lien YouTube parce que j'avais autre chose à faire. Je suis quand même allé me renseigner sur le Wikipédia, j'ai découvert qu'il y avait une portée ethnologique et sociologique du morceau.
Non, c'est vrai en plus, hein, elle est étonnante.
Non, c'est vrai, hein, c'est un message d'amour de la Corée du Sud, c'est évident. Et le libraire, en rigolant, alors je lui dis au libraire comme ça à l'oreille, je lui dis je comprends pas ce truc, je suis désolé, j'essaye mais je comprends pas. Il me dit bah écoute, il y a rien à comprendre, parce que à chaque fois qu'il diffusait le clip, il y avait une trentaine de jeunes qui dansaient le Gangnam Style devant l'écran. Et le libraire me dit, je suis sûr que tu mets Jules Verne et Conan Doyle en train de danser le Gangnam Style et tu vas voir le buzz que ça va faire. Je dis bon, je sais pas, sur le moment, je suis pas super convaincu, et puis ça me travaille 2-3 jours après, je me dis bon allez, je vais faire un petit croquis, ça m'a duré 5 minutes, bah, sur ma page Facebook, plah, une grosse statue et tout. Et puis bon, du coup, il y a tellement de gens en MP qui me le réclamaient, un fond d'écran City Hall Gangnam Style, que je me suis exécuté parce que je suis un mec profondément gentil.
Exactement ce que j'allais dire, ou faible, ouais.
Alors, juste une question, parce que c'est vrai que c'était c'est une question qui revient régulièrement en fait dans l'émission, c'est qu'est-ce qui est fait à l'encre, qu'est-ce qui est fait à l'ordinateur. Donc on va parler purement technique, donc on se fout complètement du scénariste. Le scénariste, lui, il utilise des logiciels de génération automatique de trames de scénar.
Attends, le scénariste, il commence d'abord par prendre des notes avec un crayon sur un papier, et une fois qu'il a pris ses notes, il met tout effectivement sur l'informatique.
Il faudrait t'expliquer quand même que même Jules Verne n'avait pas songé qu'il fallait inventer un téléphone portable pour aller aux toilettes, et que téléphone portable, c'est bien pratique pour préparer ses questions pendant les toilettes. Aucun temps mort, tu vois. Donc sérieusement, quelle est ta technique?
Dans City Hall, Jules Verne a un steampad, hein, je suis désolé. Donc il va aux toilettes aussi, il écrit.
Je sais pas comment il s'écrit aux toilettes par contre, mais ça c'est fameux. Enfin,
il paraît qu'il avait des toilettes tellement profondes que ça lui a donné l'idée de venir nuire le soleil mer. Mais moi je dis ça, c'est tout. Je dis ça. Bref.
Il a regardé les abysses. Il a regardé les abysses, droit dans les yeux, ouais, il a regardé les abysses.
Droit dans les yeux, c'est pas ce que j'aurais dit. Concrètement, qu'est-ce qui est fait à l'ordinateur? Pratiquement rien, les bulles sur le premier et le deuxième tome. Et quand il y a des gros aplats noirs, je mets une petite croix sur ma feuille et après je le remplis avec Photoshop. Pas de marque. Sinon, tout le reste est, on va dire, pour rester dans le coup, analogique, à la main. Tu t'en sors pas avec ta veste.
Non, parce qu'il faut que je donne les 20 euros à Thomas maintenant.
Pourquoi?
Bah, et je me suis planté.
Non, c'est que la main. Je serais tenté, bien évidemment, de prendre des logiciels type Manga Studio, comme le font certains copains. Oh, il y en a plein, Nicolas Mitric, Stéphane Louis, qui est d'autres pires, pas Pierre Monichan, il le fait encore à la main. Philippe Cardona, bon, il y en a plein. Bon. Mais je... Comment dire ? Il faudrait que je dompte le logiciel avant de pouvoir récupérer la vitesse que j'ai déjà. Et grâce aux excellentes éditions Kama qui font que je ne regarde plus la télé, je ne joue plus aux jeux vidéo, je ne dors presque plus, je vais déjà super vite, je fais 2 pages par jour à la main. Et je pense qu'avec l'informatique, d'abord, je perdrai du temps. Ça, je peux pas me le permettre, sinon on me coupe les jambes.
Alors, vous faites, entre guillemets, de la manga, mais justement, est-ce que des gens qui ne connaissent absolument pas le français sont tombés sur les éditions ? Est-ce que vous avez déjà eu des retours, justement, de personnes qui, sans comprendre le scénario, pour voir un peu comment ils réagissaient par rapport à ça ?
Oui, on a même une chronique de 4 pages écrite en russe sur Internet qu'on a été absolument incapable de traduire, même avec Google Trad, désolé, ça ne veut rien dire. A priori, les quelques phrases qu'on a compris font que ça a l'air bien, mais on ignore comment cette personne qu'on a rencontrée justement à Japan Expo a bien pu le lire vu qu'elle parlait anglais et russe. En tout cas, oui, on commence à avoir des retours de l'étranger, c'est assez étonnant. Et du coup, Ankama a pris les devants, puisque là on commence aussi à réfléchir justement à la possibilité de le traduire pour pouvoir le partager
et puis cliquer sur j'aime aussi.
Ben, c'est sur ça qu'on se quitte. Alors, ami Rémi Guérin, Guillaume Lapeyre, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci, désolé. Au revoir.
Voilà, c'était l'interview de Rémi Guérin, Guillaume Lapeyre pour la trilogie de bande dessinée City Hall parue chez Ankama. C'est une bande dessinée au format manga dans le label Curie. Voilà, des BD de steampunk qu'on vous recommande.
On va faire un petit peu de girly. Et avant de replonger dans le steampunk, appartement 44.
Ah bon, tu veux le mettre,
je préférais, oui.
Bon, d'accord.
C'est truc un petit peu sympa parce qu'après je vais enchaîner avec quelque chose d'un peu noir, quoi.
Et tu veux pas qu'on fasse la vague steampunk juste avant pour la finir et puis passer à autre chose après.
Voilà, on fait la prog en direct.
En direct.
Et tout, voilà. C'est un petit peu. D'accord, ok. Tu commences par laquelle ouais. Par Nicodemus Red.
Alors, Nicodemus okay, Red, voilà, hein. Donc ce sera mieux. Nicodemus Red, alors attends, je vais faire circuler la bande dessinée pour que. Voilà, tiens. Jette un œil. Nicodemus Red, tome 1, Les Dragons d'Île Rude. Donc c'est une bande dessinée d'aventure steampunk, toujours, comme je l'ai dit. Scénarisée par Didier Chris. Dessiné par Maba, toujours chez Ankama, et Ankama lance une nouvelle collection qui s'appelle Fantasy Factory, dont Didier Chris est chef de collection. Voilà. Alors ça se passe en 1870, et alors que le peuple de Maryland s'appauvrit de jour en jour, l'Empire organise une gigantesque chasse aux dragons dans le pays glacé d'Île Rude, pour en fait détourner l'attention du peuple qui meurt de faim. Mais même les locaux n'ont plus jamais vu de dragons depuis des générations, alors mythe ou réalité ? Voilà, donc en fait la BD ça raconte une chasse aux dragons géante qui est un prétexte pour montrer plein d'équipages de cette époque un peu de révolution industrielle. Alors on a des zeppelins, c'est un zeppelin qu'on dit ou zeppelin ?
Bah tu dis zeppelin en français.
Bon voilà, on a des zeppelins, on a des sous-marins.
Mais tu dis pas Led Zeppelin ?
Non,
mais...
non,
il faut se
non,
mettre
mais
d'accord.
C'est pas vrai.
Il me cherche. Il est en train de me chercher là.
Et je t'ai trouvé.
Voilà. Alors.
Merci.
Donc voilà. Donc pour ceux qui aiment les ambiances un peu Capitaine Nemo, les rouages, la mécanique, là, un petit peu de vapeur également. Donc ça c'est typiquement pour vous. En plus le visuel est dépaysant puisque ça va dans des contrées un peu glaciaires. Avec des autochtones qui sont vraiment des autochtones un peu coupés du monde civilisé qu'on voit au début. On voit que les équipages, à part l'équipage des protagonistes, c'est pas vraiment des gens forcément très recommandables non plus. Ils ont chacun un code d'honneur très très différent. Certains n'hésitent pas à balancer des gens du haut d'un zeppelin pour aller plus vite ou pour sanctionner des gens qui sont mal comportés dans l'équipage. Donc voilà, c'est une pure BD d'aventure. Typiquement moi qui me parle moins que d'autres albums dont je parle ici parce que on a une colorisation à l'ordinateur qui...
Ouais, j'allais dire, ouais, ça pue l'ordinateur, c'est un peu dommage pour ça, quoi.
Ouais, mais après, c'est une bande dessinée d'aventure qui saura satisfaire, je pense, les gens qui sont férus de BD codifiées, la science-fiction à la française, comme le peut le sortir Delcourt au soleil, par exemple. Donc là, je pense que ça remplit son office les doigts dans le nez. Nicodemus Red. Alors le seul point négatif que moi je trouve, bah, alors à part le fait que les poses des par exemple, quand il y a les bastons par exemple, c'est super figé. Tu n'étais pas là en train de trépigner en disant eh, vas-y élimine les assaillants ou des trucs comme ça. Tu es un peu spectateur, tu sors un peu du truc. Et puis aussi le trio de protagonistes pour l'instant il est complètement inexistant parce que ils sont relégués au second plan. Forcément tome 1 il faut que tu décrives l'ambiance, l'époque, le ton, qu'on s'acclimate avec les parties prévisuelles, etc. Et puis c'est vrai que Nicodemus Red là franchement il est complètement il passe à l'as, il est au troisième niveau carrément. Ses deux acolytes, on voit qu'il y a un gars un peu qui a de l'expérience, qui a un peu bourlingué, un autre on dirait que c'est un gars qui a un héritage d'indien, qui est en communication avec les animaux ou la nature. Pour l'instant, c'est à peine esquissé. C'est vrai que, justement, les frères et sœurs qui sont issus de ce monde glaciaire, qui vont aider les héros, sont paradoxalement mieux mis en avant que les héros. Donc, pour l'instant, ils sont un peu en retrait. C'est, voilà, les points négatifs que je pourrais souligner. Mais après, ça reste une bonne série d'aventures en devenir. Je pense qu'il passionnera surtout le public un peu plus jeune. Voilà, Nicodemus Red, Les Dragons d'Ilrude, c'est le tome 1 par Didier Chris. Pour ceux qui connaissent Didier Chris, et puis surtout un dessinateur de talent qui a beaucoup fait de bandes dessinées.
Qui a beaucoup fait de femmes très poumonées.
Voilà, aussi. Et cette fois-ci, au dessin, c'est Maba, voilà. Chez Ankama dans la collection, la nouvelle collection Fantasy Factory.
Vous écoutez le supplément week-end numéro 347 tout à l'heure sur Radio FMR. Valentin Porte est l'invité de Ça c'est du sport. Ouais. Et je suis sûr qu'il est venu en avance pour essayer de lire les BD et tout, etc. N'hésite pas. N'hésite pas avant le direct. Quoi.
Fais circuler. Voilà. Ouais.
Quelque chose d'un petit peu plus fun et amusant avec Sois bête et tais-toi de Martin Singer. Singer, oui.
Alors c'est Martin Singer ou Martin Singer, choisis ton camp.
Bon, Martin Singer, voilà. La vie privée des animaux est-elle si différente que celle des humains? En tout cas, Sois bête et tais-toi tente de montrer que non, c'est aux éditions Poivre et Sel. Les animaux, ainsi, ont donc les mêmes besoins que nous. Manger, faire sa crotte, trouver femelle, élever les petits, trouver un job, négocier avec son banquier. C'est un design très épuré.
Un design
très épuré, mais avec des histoires sauvagement drôles, même en costard cravate. Et les animaux ont eux aussi des démons bien humains, comme la vengeance, la pornographie, le besoin d'avoir une grosse voiture, ou encore des revendications syndicales matinées d'idéologie marxiste. Bah oui, passer les journées à pointer, à se faire engueuler par les patrons incompétents, ou encore voir son poste ou sa vie menacée par le premier fonds de pension actionnaire venu, bah c'est pas super jouasse comme vie. Alors des fois on craque, on pète les plombs et on laisse ses instincts sauvages reprendre le dessus. Sois bête et tais-toi, c'est un petit bouquin en noir et blanc, bien marrant, des histoires qui ne sont pas si indépendantes les unes des autres mais qui sont organisées par chapitre. Chaque chapitre en fait est à un animal, que ça soit l'éléphant, la girafe, le banquier, et il est difficile...
Le banquier c'est un animal.
Oui. Il est difficile de résumer l'histoire sans trop en dévoiler. C'est aux éditions Poivre et Sel, c'est de Martin Singer. Et franchement, moi, je ne sais pas comment le prononcer.
Mais...
voilà, en tout cas, moi, je me suis bien éclaté à le lire. Et ça a vraiment été une torture, en tout cas, de faire la chronique comme cela, sans trop en dire.
Sans trop dévoiler, d'accord.
Voilà, c'était un petit peu difficile. Tout à fait autre chose. Alors là, par contre, c'est un bouquin qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, rigolo. Hein, je veux dire, Lin Kunwoo, on en avait parlé récemment à propos de son autobiographie et de celle de son père. C'était en deux tomes, Une vie chinoise dans la collection Made in Shekana. Là, il revient pour Les pieds bandés, qui est un one shot, donc une histoire complète. Et il raconte un peu ce qui fait qu'on trouve les pieds beaux. Attention, pas BOT, hein, beau, magnifique. Je ne parle pas d'un fétichisme à la Georges Jetron ou à la Quentin Tarantino, mais d'un critère de beauté très spécifique de la Chine impériale, les fameux pieds en lotus d'or. Alors les pieds en lotus d'or, ça veut dire qu'ils font 7,5 cm de long. Alors pour vous donner une idée, j'avais demandé aux animateurs, et d'ailleurs, hop, tant qu'on a un sportif, ils veulent faire lui aussi. Et on a chacun mesuré la longueur de nos pieds.
Si la longueur de ses pieds est proportionnelle à sa taille, je pense que
ça doit pas être triste. Alors moi, il fait 25 cm, Thomas fait 28 cm, Morgan 30 cm, Dusport 30 cm, et 30. Donc Valentin Porte fait 30 cm. Donc,
C'est bien.
Les fameux pieds en lotus d'or, qui étaient le summum de la beauté dans la Chine impériale, faisaient 7,5 cm de long. Là, vous voyez le cliché dans Tintin et Lotus d'or,
ouais,
voilà.
Bleu.
Lotus bleu, pardon. Bah voilà. quand on sait que des tels pieds sont recherchés par les nobles et les riches bourgeois, on comprend d'un coup pourquoi des milliers de filles eurent les pieds torturés dès leurs 6 ans. Chunqiu, donc, c'est l'histoire de cette, c'est l'histoire en fait de d'une personne que l'on suit dans ce livre, qui a subi donc la souffrance des pieds bandés, où les os sont tordus et où il ne lui est pas possible de marcher, de poser le pied au sol pendant 2 semaines, tellement qu'elle souffre. Impossible de marcher, mais comme dit sa mère, la potion est amère, mais le jeu en vaut la chandelle. 6 ans, c'est l'âge idéal, quand la peau est douce, les articulations tendres, les os pas totalement durs. Je lis ici en fait l'opération telle qu'elle est racontée dans le livre. Il faut d'abord préparer
les enfants, si vous pouvez vous éloigner du micro,
du poste, c'est assez explicite. Il faut d'abord préparer 2 petites paires de souliers bien cousus et tout l'équipement nécessaire. Une bande blanche de tissu de chanvre, raidie avec de l'amidon, bien sèche et enroulée. Également une paire de ciseaux, un dé à coudre, une bonne aiguille et du fil de couture. Sans oublier de l'alcool jaune, une cuvette, du coton, des chutes de tissu. Ah oui, j'ai oublié, il faut du sang frais de chèvre. Son sang a immédiatement détendu mes pieds, puis ma mère les a mis sur mes genoux, a saisi 4 orteils dans sa main et les a recourbés avec force contre la plante de mon pied. Un tonneau de larmes et l'assurance d'être d'avoir un mari qui est fortuné, sachant que la Chine impériale, on change de famille quand on est une femme, c'est-à-dire on appartient à la famille de son mari, on ne fait plus partie de son ancienne famille, donc on peut changer de condition sociale, passer d'une paysanne à riche propriétaire terrien, voire noble, voire proche en fait de l'empereur. Dans son précédent livre, Une vie chinoise, Lin Kunwu racontait l'idéal de son père, une histoire de la Chine de 1946 à nos jours. Là, ce sont les rêves brisés de sa nounou Chunqiu, secoué par les différentes révolutions, celle de la République, puis celle de la Révolution culturelle. Et le martyr, l'idéal, la mutilation subie pour ce qui allait devenir finalement une époque révolue. La Révolution culturelle où les nattes furent coupées, les statues brisées, les rouleaux de poèmes brûlés, l'ère d'une autre culture qui ouvrait la Chine à une autre modernité, qui allait aussi être une catastrophe. Comme l'a dit Mao Zedong, la Chine était au bord du précipice, elle a fait un grand bond en avant. Non, c'est vraiment ce qu'il a dit à l'époque. C'est aussi pour Chunqiu, ses pieds dont elle était si fière, qui vont devenir pour elle l'objet de brimades, puisque du coup elle représentait l'ancienne Chine et dans sa chair. C'est encore plus troublant quand au milieu du livre, on tombe sur la photo d'un petit meuble à maquillage et surtout des chaussons de soie qui font 7,5 cm de long. Donc, ce qui reste à l'auteur de sa nounou. Je vous laisse découvrir dans ce livre si elle a trouvé un beau parti et surtout comment son destin fut aussi tordu au point de devenir la nounou d'un commissaire du peuple. Lin Kunwu, les pieds bandés, c'est dans la collection Made in Shikana. Le graphisme est en noir et blanc, c'est vrai, il faut l'apprécier, tout ça, il faut rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans...
Le dessin, déjà, à première page, ça, tu vois que ça déchire.
Déjà, la vie chinoise, là, c'était en 2 tomes, il me semble. C'était vraiment excellent, de toute façon. Quoi.
Le dessin, de toute façon, tu vois que c'est un maître, le mec.
Je rappelle qu'il fait partie de la confrérie, je vais dire, des dessinateurs officiels du parti, mais il a vraiment un talent de ce côté-là. C'est limite justement dans ce trait, très calligraphié. C'est très beau, c'est cette imperfection, du pinceau avec cette encre un petit peu épaisse et en même temps, waouh. Voilà, on se prend une énorme claque.
Moi, j'avais envie de poser une question à notre sportif, puisqu'il va falloir qu'il s'approche un peu du micro s'il souhaite répondre. Justement, toi qui as un rapport au corps, puisque tu es un sportif de haut niveau, c'est aussi de l'amusement, mais aussi quelque part un peu de souffrance aussi. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Est-ce que ça t'intrigue? Quel est ton rapport à la souffrance quand on est sportif de haut niveau aujourd'hui? Est-ce que toi, ça te... Toi, t'aimes bien suer sang et eau sur un terrain parce que c'est ton gros kiff, ou est-ce que...
Non, c'est vrai que nous, on a l'habitude de bien souffrir aussi, mais à ce point-là, peut-être pas quand même, quoi. Quand on parle, nous, c'est plutôt du régime, des choses comme ça, quoi. On souffre pas autant que ça, donc non, on n'en est pas là encore, quoi.
D'accord.
Pas encore.
Merci, Valentin. Quelque chose de beaucoup plus fun et léger, et girly surtout.
Girly, oui, pour se le rendu. Alors, on va parler de colocation maintenant. Donc, ça s'appelle Appartement 44 et c'est le 4e tome. Donc, le dernier également, puisque en fait, c'est une série qui suit, chaque tome suit une saison de l'année. Et c'est donc, ça suit les 4 saisons. Ça commence avec septembre-octobre, puisque c'est la rentrée, puisque c'est une année scolaire, c'est pas une année civile. Donc, c'est. Donc 4 tomes, donc une colocation entre 4 personnages. L'auteur de cette bande dessinée s'appelle Dara, il fait le scénario et le dessin. Il est également assisté d'une jeune fille à chaque fois qui change selon les tomes parce qu'elles ont d'autres boulots à côté. C'est toujours chez Ankama. Et depuis le tome précédent, il y a des grands chamboulements qui sont venus perturber la vie des 4 jeunes Parisiens. Mick et Coco forment un drôle de couple, aucun n'arrivant à se dire les choses. Coco monte enfin sur scène avec son groupe de musique, mais le concert ne se déroule pas comme elle l'espérait, tandis que Mick renoue avec Agathe, une vieille amie atteinte d'une grave maladie. De leur côté, les deux taciturnes Gigi et John se rapprochent, la première après avoir évité de manière surnaturelle un grave accident de voiture et persuadée d'être l'alien à son insu. Et se replie sur elle-même. Puisque, oui, dans les épisodes précédents, on avait appris par la voisine qui était médium qu'il y avait un alien qui se cachait parmi les 4 colocataires. Donc, c'était ensuite un jeu de piste pour savoir qui était l'alien. Alors, ils se posaient des questions mutuellement. Et chacun, en fait, avait des petites tares. Puis il y en a un qui était somnambule, l'autre qui était accro à ses chats. Puis à un moment donné, il rentre dans l'appart. Et puis il y a le chat qui marche au plafond. Il y a des gâteaux qui traînent au frigo, ils y sont plus, ils sont sortis. Alors tiens, c'est bizarre. Qui c'est qui fait tous ces qui manifeste son pouvoir? Alors justement, donc les 4 sont assez complémentaires. Il y en a un qui est timide et qui est très étudié. C'est un étudiant et c'est confident de tout le monde. Il est un peu en dedans. Il y en a une qui est plutôt un peu sombre, un peu grunge, qui est plutôt l'artiste, etc. Et bien dans ce 4e tome, on apprend qui est justement l'alien, mais je ne vous dirai pas qui c'est à ce micro.
Ah bon, donc finalement c'était pas une blague, ok.
Ah non, c'est pas du tout une blague en fait. Alors évidemment, bon, ça survient dès les premières pages de ce 4e tome. Alors évidemment, après quand il y a les explications, t'es presque déçu parce que c'est trop évident en fait. Tu te dis, bon, tiens, le personnage avoue que c'est l'alien, mais tu te dis, bon, peut-être que c'est un faux indice et que c'est peut-être pas ce personnage-là, peut-être que c'est pour couvrir un autre. Bon, en fait, non, t'es un peu déçu parce que du coup, il te fait monter la sauce pendant 3 tomes et puis à la fin, bon, d'accord. Alors, ce 4e tome, c'est aussi la séparation puisque y en a qui étaient pour les études, donc ils vont se séparer. L'alien, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rentrer sur sa planète ou pas? Donc,
c'est un peu Nia Under Seven.
Oui, exactement ça. Nia Under Seven, on trouve du Nana aussi dedans. En fait, c'est un peu une ambiance un peu douce amère, puisque tu te dis, tiens, c'est un peu mélancolique le truc. Les couples et les tensions diverses se résolvent toutes, plus ou moins. Bon, voilà, c'est une belle conclusion à cette petite série. Franchement, que tu peux lire pendant un dimanche pluvieux chez toi, avec un petit thé à côté, sous un plaid, dans le canapé. Tu te dis ça assez vite. Tu dis ça assez vite parce que...
C'est cette saison-là.
Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment une série... Bon, alors là, c'est Morgan qui les a chez lui, ouais. Il les a pas rapportés, mais c'est une série vraiment... Si vous connaissez un peu l'esprit visuel des shoujo mangas, c'est des mangas pour les filles, donc c'est plutôt des nuances de gris, des gros plans sur les visages surtout, où les décors sont réduits au plus simple appareil. Tout repose sur les dialogues, donc ça se lit assez vite. Tu vas pas t'attarder sur les détails graphiques pour dire tiens, il a trop bien fait tel décor ou etc. Parce qu'en plus c'est souvent tu les vois sur une scène de concert, dans des cafés, etc. Mais surtout, c'est surtout dans l'appartement, en fait. Donc, tu vois l'appartement sous toutes les coutures, tu essaies de visualiser un peu le plan de l'appart. Bon, voilà. Donc, après, il faut pas être allergique à ce type de manga, plutôt pour un public féminin. Mais ça, vraiment, c'est une série agréable. On voit que l'auteur maîtrise. C'est pas une foudre de guerre au niveau des dessins, mais c'est hyper efficace, ça marche bien, et puis voilà quoi, tu passes au bon moment. Donc voilà, Appartement 44, donc c'est une série en 4 tomes qui est finie. L'auteur s'appelle Dara, c'est un français, c'est un manga à la française, et c'est toujours chez Ankama.
Super, on enchaîne parce qu'il est pratiquement 13h.
Sur Radio Éphémère.
Cinéma vous est présenté en VF 3D.
C'est du Dolby.
Ouais, désolé pour nos amis auditeurs qui se sont fait cramer les tympans.
On a de l'IMAX.
Non, mais nous, au retour, on n'a pas le compresseur, mais eux, ils ont le compresseur. Alors, eux, ça va, quoi.
Ouais, et ça va.
C'est nous que ça...
Bon, allez.
Allez, on parle cinéma. Ben voilà, on va de... Je sais que Morgan l'a vu.
Tout à fait.
Est-ce que Valentin a vu Oblivion?
Non.
Est-ce que c'est type de film que t'aimes bien ou pas?
Ouais.
Plus près du micro, s'il te plaît.
Ouais.
Ça sera mieux pour moi.
Ouais, tout à fait. Ça, il faudrait que j'y aille d'ailleurs. Ouais. On m'en a dit du bien.
C'est quoi le dernier film que t'as vu au cinéma?
Iron Man 3.
Ouais.
Ah, bah, c'est, voilà, c'est tout frais.
La semaine prochaine, tu te la fermes.
Alors, bien ou pas?
Ouais, super bien.
Bon. Okay.
Pour un 3, c'est bien.
Bon, ah, okay. Pas mal.
Bon, d'accord. Alors, on parle d'Oblivion aujourd'hui. Oblivion. Voilà. Film de. Joseph Kosinski, à qui on devait déjà le trône Legacy, trône d'héritage, avec l'inusable, le gars qui a toujours la même tête, et même à 70 ans, il aura toujours la même tête, c'est Dorian Gray, ce mec, c'est Tom Cruise, qui joue toujours...
Ah non, il y a un film dans lequel il n'a pas la même tête.
Bah oui, bah c'est Magnus Sky.
Tonnerre sous les tropiques aussi.
Oui. Ah oui. Oui.
C'est
oui.
Vrai.
Tonnerre sous les tropiques et Magnus Sky aussi. Voilà, ouais.
C'est vrai.
Alors voilà, casting Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough et pour les fans de Game of Thrones, il y a Nicolas Coster-Waldau dedans qui fait un petit rôle. Alors on est en 2077, c'est marrant, c'est toujours ces films de science-fiction qui décrivent un univers qui est très très loin de nous, mais
pas si loin dans le temps.
Dans le temps, ouais, voilà, pas si loin dans le temps, voilà. Alors 2077, Jack Harper. Notez l'originalité du nom, hein. Jack Harper.
Il s'appelle tout le temps Jack Tom Cruise.
Et ouais, parce qu'il y a un autre film de lui qui s'appelle Jack Reacher. Ouais, c'est marrant. Hein. Voilà.
Bon, non, sérieusement, là d'entrée, hein, comme ça, c'est dans quel roman de Ron Hubbard là, cette fois-ci l'adaptation?
Allez, 2077. Donc Jack Harper, c'est un technicien. Alors il travaille en binôme avec Vika, qui est une femme qui travaille avec lui, d'observatrice, qui ne quitte jamais sa station d'observation et qui communique constamment avec Sally de la colonie terrienne. Oui, puisque nous sommes dans le futur, un futur où la Terre a été totalement évacuée par les humains suite à une guerre avec les chacals.
On dit pas des chacos ?
Ouais, les chacals. Les humains ont gagné la guerre, mais ont dû quitter la planète en partie contaminée. La mission de Jack et Vika, après s'être fait enlever la mémoire, c'est le truc d'office quand tu acceptes cette mission, c'est d'assurer la récolte des matières premières pour la colonie humaine sur une autre planète. Donc ce sont des gigantesques sondes qui vont prendre de l'eau, etc., qui est nécessaire pour que les humains s'établissent ailleurs. Et leur mission est aussi d'assurer en plus des récoltes de matières premières, c'est aussi de réparer des drones qui sont censés repérer et éliminer les chacals dans l'obscurité et les protéger. Sauf que Jack fait un rêve récurrent. C'est-à-dire qu'il rêve... Alors, ce sont des scènes qui se passent avant sa naissance, sur une terre qui est la nôtre, hein, où il flâne avec une jeune femme très très belle, brune, dans New York. Son hiver, évidemment, à un moment donné dans le film, se trouve bouleversé. Puisque il se trouve qu'il assiste au crash... d'un vaisseau spatial humain et dont l'unique survivante, comme par hasard,
c'est Olga.
C'est Olga, donc la nana dont il rêve tout le temps. Mais c'est pas possible, puisque c'est un rêve, il ne l'a jamais rencontré. Sauf que la nana se réveille et elle dit Jack, et elle tombe dans les pommes.
Et merde.
Et là, tout ce que tu pensais savoir se retrouve retourné. Puisque nous ne sommes pas un retournement de scénario près dans ce film.
Du tout.
Alors, tout va être chamboulé. Pourquoi ? Ouais, bon. Tout va être chamboulé. Alors, comment on pourrait décrire ce film ? Film de science-fiction froid, déshumanisé, une ambiance glaçante.
Très.
On comprend par la suite pourquoi l'ambiance est déshumanisée. Clin d'œil.
La gueule !
Mais oui, pas de spoiler. Alors le film fonctionne pas mal sur les retournements de situation, on l'a dit, oui. Mais il y a un truc qui va un peu de travers dans le film, c'est que au milieu entre deux retournements de situation, c'est pas transcendant, enfin selon moi, c'est pas un truc qui monte crescendo. C'est un film attendu, mais entre plusieurs plages de séquences attendues, t'as des petits retournements qui te disent hey, l'histoire repart, allez hop. C'est comme quelqu'un qui nagerait en fait et puis qui prend appui sur le mur de la piscine pour repartir, et puis en fait entre deux appuis, la nage est un peu chiante. Voilà.
Et là, il me vend du rêve.
Et t'as vu ça?
Ouais.
Je trouve des métaphores. En fait, c'est un peu une gageure de parler de ce film sans parler des fameux retournements.
Oui. Bon. Des retournements plus ou moins attendus d'ailleurs.
Plus ou moins attendus, oui. C'est vrai, on peut pas en parler non plus.
Ce qu'on peut dire, c'est que durant tout le film, il y a
Non, on peut pas.
c'est pas mal ce que t'as dit.
C'était pas mal, alors tu remets tout de suite, voilà. Non, je disais qu'il y avait beaucoup de Tom Cruise pendant tout le film.
Oui, beaucoup de Tom Cruise.
Voilà, beaucoup de Tom Cruise.
Voilà. Alors la bande annonce. J'ai un petit bip dans les
oreilles. Non, c'est normal.
D'accord. C'est horrible.
On voit dans la bande-annonce qu'il y a un Morgan Freeman qui apparaît, ce qui est très étonnant, puisque le concept de base est que les deux uniques humains sur la planète sont donc Tom Cruise et cette fameuse Vika.
Heureusement que tu dis que c'est dans la bande-annonce.
Ouais.
Je suis couvert
par la bande-annonce. Alors, le grand plus du film, par contre, c'est l'incroyable design visuel. Puisque là, ils se sont fait plaisir au niveau des tenues, au niveau de la post-prod, du look, des vaisseaux, des drones, des moyens de locomotion, à part la moto qui fait très plastoc.
Carrément.
Ouais.
Mais son petit utilitaire, là, son petit vaisseau, j'aime beaucoup la façon dont il décolle.
Actuellement à retrouver chez votre concessionnaire General Motors.
Alors, c'est un peu l'effet qu'avait fait la moto de Canada dans Akira, c'est-à-dire que tout le monde voulait la moto. Et là, je pense que tout le monde va vouloir le vaisseau de Tom Cruise. Bon, après, il est très futuriste.
Une sorte de libellule blanche. Ah ouais.
Il a une façon de faire les demi-tours qui est très très bien.
Très beau demi-tour. Dans
voilà. Design des drones, design de la station d'observation qu'ils ont, parce que cette piscine, moi je veux la même chez moi.
Putain, je me suis dit la même chose. Elle est canon. Voilà. La piscine et les protagonistes. Ou la protagoniste qui va avec.
Oui, la protagoniste qui va avec. Oui, je veux la piscine avec.
Voilà.
Alors, je vais m'arrêter là au cas où je serai écouté par mon binôme à la maison. Voilà, pourquoi tu dis t'inquiète pas, toi. Voilà, donc le design visuel du film fonctionne à plein régime. Ça, c'est très très bien. Par contre, c'est vrai que si tu fais de la science-fiction froide, il faut s'appeler Andrew Niccol. Gattaca
Simone.
Il faut avoir le talent d'Andrew Niccol pour te faire passer de la science-fiction froide et que tu t'éclates devant. Là, le côté froid, c'est vrai que ça te laisse un peu au bord de la route.
Même aux niveaux sonores, donc je pense à la musique et au bruitage. Donc les bruitages, il y a des bruitages qui m'ont fait penser à Star Wars, mais c'est gros comme une maison. Je me demande si c'est pas les mêmes, un tout petit peu modifiés sur les lasers et des choses comme ça. La musique, on est dans de l'électro des années 80 typiquement, donc un peu un mouvement qui revient à la mode. Je parlais de Minitel Rose tout à l'heure, mais c'est exactement ça, donc c'est ce style de musique. Donc ça peut déranger beaucoup de personnes, je pense que ça va très mal vieillir en fait. Après, c'est vrai, voilà, il n'y a rien d'innovant de ce côté-là, niveau sonore en tout cas, je pense.
Par contre, au niveau innovant du son, je suis d'accord avec toi. Par contre, la dimension sonore est très très importante dans le film, puisque ça, c'est la première moitié du film où tu as pas vraiment les retournements de situation, où par la mise en scène et par l'absence de dialogue, ils arrivent à te faire passer que Tom Cruise est l'unique humain qui pose le pied en course sur cette foutue planète. Il y a une dimension sonore justement avec les drones qui émet un signal pour lui apprendre s'il est seul ou pas, et là t'as vraiment le sonore et le mouvement répétitif de ce drone et ce son déshumanisé robotique qui est très 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 important, et c'est presque par le son et par l'absence du visuel dans le film, puisqu'à un moment donné il s'aventure dans l'obscurité, qui te fait passer la tension, parce que forcément Tom Cruise nous la joue vraiment un jeu d'acteur complètement robotisé, pas une once d'émotion, et puis en plus vous savez ce jeu d'acteur là, Tom Cruise avec ses maxillaires qui sont serrés, tu sais là, voilà, comme il est à la Ethan Hunt presque,
c'est ça,
voilà. Donc
c'est ça dans le futur.
Non, ça voilà. C'est toutes les opérations de rajeunissement.
Voilà. Alors, toujours est-il qu'au final, qu'est-ce qui reste de ce film? Alors, je l'avais pas noté, mais effectivement, je pense que c'est un film de science-fiction qui vieillira mal. Par contre, c'est un film où tu peux pas dire qu'ils ont pas foutu de l'ambition dedans. C'est un film qui est peut-être tiède, mais qui, sur certains côtés, on voit qu'il y a du boulot, quoi. Voilà. Donc, il faut le voir peut-être pas au cinéma, mais c'est un film à voir, quoi.
En tout cas, pour les décors, cette sensation de grandeur d'espace et les villes qui ont été, parce qu'on voit en fait les restes des villes actuelles, ça, de ce côté-là, le vieillissement est super bien fait. On reconnaît certains bâtiments qui dépassent un peu du sable. Enfin voilà, ce côté cataclysmique, ça touche. Voilà, ça c'est très bien réalisé. Et voilà, les territoires, les paysages sont immenses. Et ça, on respire dans ce film, ça c'est sûr.
Et pour continuer sur le spoil, mais pas trop, à la fin, tu sors du film, tu te dis. Ah ouais, c'était ça en fait le truc, mais en même temps ça t'en touche une sans toucher l'autre quoi. C'est bon, qu'est-ce que je vais me faire à bouffer quoi finalement.
Sans te bouger une sans toucher l'autre.
Ben c'est ça, c'est que tu dis ah c'était ça la révélation et puis bon sinon je vais reprendre du riz. Voilà, c'est.
Ouais.
Quoi le riz? Qu'est-ce qu'il y a le riz?
Du popcorn.
Du popcorn. Cinéma, voilà.
Bon, tu reprends un truc quoi.
Non, y a rien de péjoratif.
Non, y avait rien.
Reprendre du riz, attends, c'est quoi
Bon, j'ai attendu la fin du générique, mais il s'est rien passé. Hein. À la Iron Man, tu vois un peu Marvel, non, il y avait rien.
Non, il y a pas de Nick Fury qui arrive ou ouais.
Voilà.
Bon, hein. Bon, voilà. Donc du coup, et eh ben voilà,
on regarde un peu quand même quoi.
C'est quand même à regarder, oui.
Non, mais moi la bande annonce, elle m'a donné envie d'aller le voir,
oui.
Malgré le scientologue. Hein.
Mais je regrette pas.
Je pense que il tourne à fond les manettes parce que maintenant il a une sacrée pension alimentaire à payer. Hein,
oui.
Le gars, hein.
Et puis un film, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, quand même un film si vous pouvez profiter d'une petite séance matinale ou des réducs, c'est quand même un film à voir quand même en grand écran parce que un film post-apo avec peu d'acteurs. Et le vide qui est si présent avec vraiment cette ambition visuelle dans le rendu, dans la post-prod, dans ces blancs qui sont immaculés, c'est vraiment quand même un film à voir en grand écran. Donc voilà, on vous le recommande quand même, même si c'est pas le film de l'année. Oblivion, voilà, avec Tom Cruise de Joseph Kosinski, quand même, voilà.
Merci. Oh, mais ma foi, qu'est-ce que j'ai là sous la main? Attends. Oh, je me trompe. En fait, c'était le. Je me trompe de jingle, voilà. Je vais y arriver.
Il avait le temps de se préparer. Hein.
Et oui, mais en fait, je me suis trompé de morceau, ça arrive. Hein.
C'est bien parce que Valentin qui revient avec des plages. Il se passe beaucoup de mois entre ses multiples visites, il voit que ça change pas, quoi.
Ça change pas, c'est comme d'hab.
C'est aussi foutraque qu'avant. Ah, je reconnais ça.
Ah bah finalement, on a un peu.
Allons-y gaiement.
On a 3 minutes, on peut le faire.
Il est l'heure du courrier des autres lecteurs, mesdames et messieurs.
Merci, allez, vas-y. Le public arrive, ça va être catastrophique.
Ah, on a un public.
Oui.
Ok. Alors aujourd'hui, chers amis, on a du courrier, du beau, du lourd et du très très lourd même, je dirais. Je commence avec ce courrier de la mystérieuse Lulu la Nantaise. Mais oui,
Lulu la Nantaise, oui.
Votre invité de la semaine dernière, le professeur Thibault, qui est venu parler de Jesus Franco, ne m'a pas laissé indifférente. Il a l'air de s'y connaître en mouvement de caméra, zoom sur poitrine et autres sensations magiques que procure le cinéma. J'aurais voulu savoir.
Tu le vois pas parce que tu es dos aux vitres, mais on a quand même des mineurs là à côté.
Mais
attention.
Ils n'entendent pas. J'aurais voulu savoir où ce professeur enseigne-t-il parce que je suis prête à reprendre les cours d'anatomie avec lui. Merci de votre discrète réponse.
Alors lui, la Nantaise, voilà. c'est le jeu de mots, j'essaie de trouver.
Non, c'est pas un jeu de mots, c'est un personnage qui apparaît dans les Tontons Flingueurs.
D'accord.
Enfin,
dire, le professeur Thibault, donc il vient de professeur que le nom, hein, bien sûr, mais par contre pour assister à des leçons de cinéma, il faut aller à la cinémathèque à l'occasion de projections qui l'introduit.
Voilà.
Qui présente. J'ai rien dit. Mettez un bip.
Il a caressé l'espoir.
Voilà. Donc professeur Thibault, il est à la cinémathèque de Toulouse et donc si vous êtes toulousain, allez lui rendre visite et puis dites-lui que vous venez de notre part, ça lui fera plaisir.
Il vous fera un accueil particulier.
Voilà, un accueil particulier si vous voulez avoir plus de leçons de cinéma sur cette branche du cinéma bis avec des zooms sur des poumons féminins. Oui,
tout à fait. Voilà. Très bien, donc Lulu, la réponse. Voilà.
Ah bah, du sport étant remonté avec
Say
Children, je pense que oui, un deuxième pour
Allez, je continue. Alors,
C'est une personne qui a bien écouté l'émission de la semaine dernière et qui nous dit: sur conseil de Das Krisch la semaine dernière, j'ai regardé l'intégrale de MacGyver sur D8. Les 7 saisons sont... les 7 saisons plus les 2 téléfilms datant de 1994.
Ah, y a 2 téléfilms ?
Tout à fait. Oui. C'était assez chaud, mais j'ai réussi en passant les génériques et les scènes de dialogue. C'est ainsi que j'ai pu voir les 140 épisodes en 1h30. Das Krisch, je voulais te remercier car depuis je suis devenu bien plus économe et je réfléchis vachement plus avec ma tête. D'ailleurs là, je vous écris sous un pont parce que ma femme m'a largué. Apparemment, elle n'a pas apprécié que je lui fasse l'amour avec un trombone. Enfin bref.
Oh non.
Mais j'arrive à vous écouter depuis un élastique enroulé autour d'une pomme de terre et j'ai grave la frite. J'attends donc votre conseil, ô grand Das Krisch, Mac Schomer. As-tu un autre conseil pour Mac Schomer?
Oui, on m'a fait remarquer la semaine dernière, c'est donc une fessée de grotte qui m'a fait remarquer que dans le même genre bricolo et qui passe aussi sur D8, il y a bien évidemment l'agence Tourisque.
Ah oui, voilà.
Oui,
donc
forcément.
Mac Schomer, tu vois, l'intégrale de l'agence Tourisque.
Mais de
alors,
suite...
Autant se taper l'intégrale de MacGyver, ça peut donner des envies de bricolage. Autant se taper l'intégrale de l'agence Tourisque, ça peut donner envie de faire des loopings avec des voitures ou des piloter des hélicos sous
en
l'SD.
Temps, alors, je pense que cette personne n'a plus rien à perdre. Hein.
Ouais, de dégommer des passants à la Kalachnikov.
Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. 13h15, du sport arrive. Avec autant de colliers en or qu'une star de hip-hop. Vas-y.
Ah, je sais même pas comment je vais commencer là.
Je croyais que tu ménageais ton effet, je sais pas.
Non, non, pas du tout quoi. De la télé.
C'est brut.
C'est efficace. Avec quelques petits films. Là, cette semaine, j'ai décidé qu'on serait à moitié, on va dire, cinéma, un petit peu intellectuel, un petit peu d'art et essai. On va dire,
oula,
celui qui élève l'esprit.
On n'a pas la bonne bande.
Mais pour contrebalancer, on restera également dans le cinéma bien bourrin. Comme
ouais.
N'est-ce pas?
Ouais, ça va être bourrin.
Alors attaquons. Alors aujourd'hui, ce soir, un petit peu de double programme avec, par exemple, le cinéma italien des années 70, mais pas que.
Double programme, quoi.
Alors tout d'abord, Ciné Plus Club ce soir, 20h45, une pure formalité, un film de Giuseppe Tornatore, et je crois que s'il l'a fait seul, c'est parce que son frère était déjà mort. Parce qu'à l'époque, ils faisaient les films à deux, là, les frères Tornatore.
Et Tornatore, c'est celui qui a fait Cinéma Paradiso.
Non. Si, oui, peut-être. Vérifie. En tout cas, c'est un film qui est assez rigolo à voir parce que on a comme acteur Roman Polanski, qui est opposé à Gérard Depardieu.
De toute façon, il a trouvé tout le monde lui.
Antoine, le
film est pas mal et tout parce que bon, on se rend compte que Polanski comme acteur, il est pas si dégueulasse que ça en fait. On l'avait déjà vu dans Chinatown.
Ouais, bah il faisait un petit rôle.
Il faisait un petit rôle, d'accord. Bon, très convaincant, on va
oui,
dire.
Oui, bah avec le nez, hein.
Ouais, ouais. Ouais. Mais là, il a le premier rôle et puis il se démerde vraiment très, très, très bien, quoi. Hein, donc, c'est à voir, c'est ce soir sur Ciné Plus Club. Ou alors, sur Ciné Plus Classique, là, c'est le cinéma italien des années 70, c'est-à-dire un cinéma qui est militant, un cinéma qui est dégagé de toute contrainte, on va dire. C'est la grosse période du cinéma italien, de toute façon, 60-70. Ça s'appelle Nous voulons les colonels de Mario Monicelli avec Ugo Tognazzi, Claude Dauphin et François Perrier. Voilà. C'est un petit peu une métaphore de ce qui s'est passé l'année ce qui s'est réellement passé, mais l'année suivante, quoi. Mais en Grèce, en fait. C'est-à-dire que c'est un député d'extrême droite, quoi, qui réussit à monter un complot pour pouvoir prendre le pouvoir, quoi. Donc, c'est vraiment bien foutu, quoi. Monicelli, qui nous avait habitué à des films un petit peu plus. Dans la gaudriole, on va dire, dans les années 60, là, bon, bah, il fait un film relativement sérieux, mais qui cartonne quand même pas mal. Ou alors, sur TCM également ce soir, on a un double programme avec Kim Novak, qui au départ s'appelait pas Kim, hein, elle s'appelait Marilyn Pauline Novak. Mais comme Harry Cohn...
Elle a eu raison de changer en film.
Non, c'est pas elle qui a changé, c'est Harry Cohn, le patron de Universal ou je sais pas quoi, qui avait déjà Marilyn et qui dit non, il peut pas y avoir deux Marilyn, quoi, donc tu t'appelleras Kim. Et voilà, et c'est comme ça, parce qu'elle avait été repérée au départ, parce que c'était la nana qui était l'emblème d'une, d'une marque de frigidaire, quoi. Donc on la voyait une toute pub de frigidaire quand elle avait 20 ans, et puis bon, elle a franchi. Kim Novak, donc, Kim Novak qui est surtout connue pour son rôle dans
Vertigo.
Ah, exactement, voilà. Et Hitchcock la voulait pas au départ, hein. Hitchcock, il avait prévu Vera Miles au départ, sauf que Vera Miles était un petit peu enceinte, donc ça le faisait pas. Et lui voulait pas Kim Novak. Et il l'a vraiment maltraité sur le tournage, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment maltraité. Alors, tout d'abord, sur TCM ce soir, La Blonde ou la Rousse de George Sidney en 57 avec donc Kim Novak.
Novak après.
Et Rita Hayworth et Frank Sinatra au milieu, donc il y a à choisir entre l'une des deux. Et ensuite, encore Sinatra et Novak, mais dans cet excellent film de Preminger qui s'appelle L'Homme au bras d'or, l'histoire d'une addiction, mais bien foutu quand même. Et surtout, la révélation à l'occasion de ce film de Frank Sinatra en tant qu'acteur. Et il a d'ailleurs obtenu un Oscar pour son rôle dans L'Homme au bras d'or. Demain sur France 3 à 0h15, alors c'est le cinéma de minuit, mais c'est un cinéma de minuit toulousain, parce que bon bah ça commence à 0h15, avec quart d'heure toulousain quoi. Avec le film de Marc Allégret en 55 qui s'appelle Future vedette, avec Jean Marais, Brigitte Bardot, Isabelle Pia, Yves Robert. Brigitte Bardot à l'époque n'était pas connue du tout, hein. C'était vraiment jouer plus ou moins les utilités et les jeunes futures promesses. Mais bon, mais ça vaut le coup, quoi, parce que bon bah il y a Jean Marais dedans, quoi. Jean Marais auquel la Cinémathèque de Toulouse consacre tout un cycle.
Mais voyons. Pas,
avec pas aujourd'hui mal. À 15h Le Masque de Fer, à 17h15 La Maison du Silence, à 19h15 oui. Rue Blas, et à 21h Nuit Blanche.
C'est un Nuit Blanche d'ailleurs qui est assez noire, hein, ouais. Et Le Masque de Fer, je crois que c'est la version de 54.
Bah ouais, ouais, bah c'est la version de Jean Marais, avec Jean Marais, quoi. Bien, quoi. Et il y en a d'autres, hein, mais bon, pour cela, vous conseillez, vous chopez les programmes de la Cinémathèque et tout, mais il y a au moins une quinzaine de films avec Jean Marais, quoi, qui seront diffusés très, enfin, dans les semaines qui viennent à la Cinémathèque. Sinon, demain, sur RTL9, l'excellentissime Fargo des frères Cohen.
Oh oui.
Oh oui.
Magnifique.
Oh oui. Mais malheureusement, en VF, dans ce cas.
Bah ben ouais, RTL9. Ça, désolé. Dommage. Désolé, les gars. Ou alors, sur W9, la soirée et une partie de la nuit avec Tintin. Tout d'abord, à 20h50, Tintin et le Temple du Soleil.
Pascal Sevran, voilà.
À 22h15, Tintin et le Lac aux Requins, et à 23h...
C'est pas possible, Tintin, là, hein.
Et un peu plus tard,
on est bien,
Tintin et l'affaire Tournesol. Toujours demain, à 20h45, sur Ciné Plus Classique, French Cancan de Jean Renoir en 54, avec Gabin, Maria Félix, Françoise de... Arnoul et Gianni Esposito. Alors le film est vachement bien, parce que ça, c'est le film qui a, à mon avis, un petit peu inspiré un certain Baz Luhrmann quand il a fait son Moulin Rouge, parce que ça raconte l'histoire de la création du vrai Moulin Rouge à Paris. Et alors, ce qui est vachement rigolo, moi quand j'avais vu le film, moi ce qui m'avait toujours botté, c'était l'accent que prend un personnage, je me rappelle pas le nom du type, quoi, mais... c'était un humoriste dans les années 50 et 60 qui était également acteur, mais qui avait une façon tout à fait à lui de prononcer le mot French Cancan. Mais moi, ça m'avait vraiment marqué quand j'avais vu ce film.
Tu peux pas nous le faire ?
Hein, mais non, j'y arrive pas, quoi. C'est French Cancan, un truc comme ça.
Pour ça, faut voir le film.
Ouais, non, c'est un excellent Renoir en couleur, hein, attention. Non. Ou alors, ça c'est plus pour toi, Thomas, sur Polar demain soir à 21h, si je te dis Robert Klaus.
Oh, Enter the Dragon.
Eh ben non, c'est juste l'année suivante. C'est la ceinture noire, mais il reste encore Jim Kelly dedans. Comme quoi, on croyait qu'il était mort dans Enter the Dragon. Bah non, c'est lui le.
Ah héros, bah il meurt de façon un peu dégueulasse quand même.
Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Bah là, c'est comme ça, quoi. Ou alors, demain également sur OCS Novo à 20h40. L'excellent Requiem for a Dream de Darren Aronofsky,
Jennifer Connelly,
super
Ellen Burstyn, Jared Leto, et le bouquin de Selby aussi au départ, qui est un excellent bouquin. Lundi sur D8, on fait dans le western. Alors lundi, je l'ai sous-titré des bourrins, des pédérastes et des chefs-d'œuvre. Alors tout d'abord, vous pouvez me dire la différence qu'il y a entre un homosexuel et un pédéraste?
Là comme ça?
Ouais, vas-y.
Y a une façon plus courtoise de le dire ?
Non, pas du tout, quoi.
Dis-nous.
Non, homosexuel, ça peut être masculin ou féminin. Alors que pédéraste, c'est uniquement masculin. Voilà.
Bah voilà, on partira moins de con.
Eh ouais.
Et paf.
Alors, dans le...
En même temps, il va parler juste de western, tu sais, les mecs qui cavalent tout seuls dans la pampa.
C'est pas innocent quand je dis ça, quoi. Alors tout d'abord, à 20h50, Seraphim Falls, le western de David Van Anken avec Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Angie Harmon, 1-1-1-1.
Ah ouais.
Ce sera peut-être mieux que le Brokeback Mountain qui est juste après. D'accord, de Ang Lee, à 22h55.
On peut se faire les deux.
Bonne pioche,
mais oui, mais je sais.
Ouais, c'est pas mal, c'est sympa, quoi. Sur D17, à 22h30. Alors, celui-là, c'est pas mal parce qu'il passe rarement à la télé, hein. C'est La Fureur de Vaincre, de Low Way, avec Bruce Lee.
Bruce, ouais.
Bien sûr, hein. Et, on se rappelle, surtout que ce film, il y a eu le remake qui a été fait avec Jet Li.
Oui, Fist of Legend, oui.
D'accord, bah c'est la même histoire.
Alors c'est du film nationaliste pur jus. Hein. Par contre, c'est la haine des Japonais. Film avec Bruce Lee va encore plus loin.
Il va encore plus loin, ouais. Et Bruce Lee avait fait un autre film avant où vraiment c'était encore plus raciste, quoi. C'est-à-dire t'es pas chinois, t'es vietnamien. Enfin bon, c'était vraiment horrible. En plus avec les doublages français là, laisse tomber, quoi. Mais bon, il y a Bruce Lee, quoi. Toujours dans une catégorie ciné plus classique, vous propose Le Sergent de John Flynn en 68 avec un Roach Tiger tout à fait étonnant qui essaye de draguer John Philip Lowe. À l'époque, bon, ouais. D'accord, sachant que ça se passe dans les années 50 et que ce sont des soldats américains qui sont basés en France, quoi. Donc, et l'un des soldats est bien branché sur une nana, une jeune petite française et tout, quoi, qu'il a vu. Mais sauf que Roach Tiger est un peu amoureux de John Philip Lowe, quoi. Mais c'est vraiment à voir. À l'époque, ça avait vraiment défrayé la chronique parce que bon, bah, ok, quoi, on voit deux mecs s'embrasser, ok, déjà à l'écran, et en plus, c'est Roach Tiger, quoi, hein. Mince alors, quoi. Sinon, sur TCM, du bon bourrin avec bourrin, mais excellent, quoi. Tout d'abord, Délivrance à 20h40, et ensuite Fureur Apache à 22h25. Brut Lancaster, Bruce Davison, enfin bon, hein, ça va, quoi, ça marche, quoi. Mardi, sur M6, Prince of Persia de Mike Newell. Là, le mardi, on fait de la géographie.
Avec Jake, le beau Jake.
Ouais, ouais, ouais. Mardi, géographie. Prince of Persia d'abord, quoi. Ensuite, on a sur NT1 Shanghai Kid de Tom Day avec Jackie Chan ou Wailus.
Je crois que je l'avais vu, il était pas mauvais.
C'est
Jackie
rigolo.
Chan américain.
Il est très rigolo, il est très rigolo.
C'est rigolo, c'est le 2 qui est pas terrible, quoi, ouais, en fait.
Voilà.
Sur Canal Plus Family, Rio. Géographie.
Ah, mais le perroquet, c'est.
Oui, le perroquet, ouais, ouais, l'histoire du perroquet, ouais. Et sur OCS Novo, bon, j'ai été obligé de le mettre parce que sinon ça tenait pas. Indochine de Régis Varier.
avec. Révista Géo.
Avec Vincent Pérez et puis et Jean-Yann quand même, quoi. Mercredi, comme d'habitude, c'est Bourrin, c'est Pournawak. Dès 17 vous propose Explosion imminente d'Albert Pyun avec Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore. Et Tom Sizemore, il est vachement bien parce que dans Explosion immédiate, en fait, Seagal, Hopper et Sizemore, ils essayent d'empêcher un terroriste de faire sauter San Francisco. Mais Tom Sizemore, sur Sister, en même temps, il fait Superstorm. C'est-à-dire, il va essayer d'empêcher les cyclones d'arriver.
Du boulot.
Non, Superstorm, donc, avec Nicolas Stephenson et Chris Potter. Sinon, on a également mercredi prochain sur AB1 à 20h40, Péril en altitude de Jim Wynorski avec Kostas Mandylor, ni Happy Birds. Et Lyndon Ashby. Ou alors, le film qui tue et le film que, rétrospectivement, quoi, c'est-à-dire quelques mois plus tard, quand je m'en suis souvenu et puis que je me suis mis un petit peu les fichiers en place et tout, quoi, tu vois, je me suis dit, c'est carrément le meilleur film de vampire que j'ai jamais vu de ma vie.
Oula.
Alors, ceci est mon sang.
Mais non, tu peux pas dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça que Thirst est le meilleur film de vampire que t'aies jamais vu. C'est pas possible.
Bah, cite-moi-en un autre alors, quoi.
Bah, t'en as plein. Bah, le Dracula de Coppola, même Vampire de Carpenter est mieux. Dans Thirst,
Bah, si, justement, quoi.
Moi, je l'ai oublié une semaine après, quoi.
Ah bon?
Ouais.
Ah bon? Bah, moi, j'ai trouvé justement l'utilisation du thème du vampire dans ce film vraiment excellente voilà, quoi, c'est tout, quoi.
Bon,
okay. C'est à voir, hein, de toute façon. Attention, c'est un film qui est très trash. Il faut le préciser quand même.
Ouais, il y a un peu de copulation.
Pas seulement copulation, mais bon, les transformations physiques.
Pour des films de vampires, c'est un des plus soft quand même. C'est pas le plus hard.
Ouais, mais bon, ok. Alors, quittons les sujets qui fâchent avec un jeu sur des 17. Du bourrin et du bourrin avec tout d'abord le contrat. Le contrat sur des 17, le John Irwin, Schwarzy, ou alors Schwarzy tout d'abord avec le contrat sur des 17, et après à 22h45, ultime menace avec JCBD, mais enfin bon celui-là, ok.
Alors c'est Stallone ça.
Stallone.
Sur 13e rue, toujours jeudi prochain à 20h45, Unité d'élite de Sheldon Lettich. Et si on dit Sheldon Lettich, ça veut dire JCBD bien sûr. Et avec
Oudolf. Oudolf,
ouais.
T'es aware, tu vois. C'est aware.
Aware.
C'est une soirée aware.
La palme, le pompon du film, le plus porte-nawak de jeudi prochain, c'est quand même sur Sci-Fi. Bah oui, c'est la séance du jeudi sur Sci-Fi. Il y a toujours des titres incroyables. Là, on nous a sorti Jurassic Attack.
Ah.
De Anton Frankhauser.
C'est le nom du chien. Jurassic Attack.
Avec Gary Stretch.
Bravo.
Et notre
bravo
pote Corinne Nemec. Sinon,
en 3D.
Pauvre Cory, le pauvre. Passer au TGS et après se faire banner par le supplant.
Sur Ciné Plus Frisson, une soirée bien heavy, bien lourdingue. Si vous voulez vous fâcher avec votre conjoint, vous restez avec lui pendant cette soirée consacrée à Gaspard Noé. Tout d'abord, Enter the Void, suivi de Irréversible.
Comme
les
ça,
gars,
pour se niquer les yeux et. Ouais, très bien.
Vous avez tout compris.
Invitez vos beaux-parents et puis vous dites ah, tiens, une soirée CD, une soirée télé, tiens. Ah non, la télécommande a plus de piles, on peut plus changer de chaîne.
Sur Cinéfix, et ça, c'est pour faire plaisir au programmateur qui est un pote à Xavier, Le Veilleur de Nuit de Olé Bornedal avec Sophie Grabol. Ah, Sophie Grabol, ben oui, The Killing, bien sûr. Mais là, elle était vachement plus jeune parce que le film date de 94. Ou alors sur OCS Géant, Le Rouge et le Noir de Claude Tonlara, facho de sa race, mais qui a quand même fait des bons films. Là, c'est l'adaptation de Stendhal avec Gérard Philippe et Daniel Darieux, s'il vous plaît. On termine avec vendredi, Sci-Fi qui vous propose The Lost Future de Michael Solomon avec Sean Bean, Corey Sevier et Sam Claflin. On préférera peut-être Bob Roberts, qui est encore rediffusé sur Ciné Plus Tard à partir de 20h45. Putain, je l'ai revu quoi la dernière fois, je vous en avais parlé quoi, samedi dernier. Je l'ai re-regardé, Bob Roberts, ça faisait au moins la 4e, 5e fois que je l'avais vu. Et c'est toujours aussi excellent ce film, quoi. C'est vraiment toujours aussi excellent. Et alors, Tim Robbins, en fait, il le fait vachement bien, quoi. Le type qui a pour lui que le fait d'être une vedette de la country et de chanter dans l'actualité, dans ses chansons, des chansons comme La drogue ça craint, des trucs comme ça. Mais c'est géant, c'est monumental, quoi. Polar vous propose également vendredi prochain un petit film italien pas dégueulasse hein, c'est la période des années 70 également, donc Polar italien mais très très violent quoi, pour l'époque du moins quoi. La police au service du citoyen de Romolo Guerrieri avec Enrico Maria Giuseppe.
Très bien l'accent italien.
J'ai pris des leçons. Sur FX, là c'est pas un film de bouse quoi, c'est un excellent film qui s'appelle Les mains d'Orlac, dont professeur Thibault avait parlé la semaine dernière, cité la semaine dernière. Donc voilà, Les mains d'Orlac d'Edmonté Gréville avec Mel Ferrer, le papa de Miguel, Danny Carell et Christopher Lee. C'est l'histoire d'un pianiste qui a les mains niquées, qui se fait greffer des mains, mais c'est les mains d'un guillotiné. Et donc il va avoir les feelings, les sensations du type qui s'est fait guillotiner. Pourquoi il s'est fait guillotiner et tout.
D'accord.
Quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, hein, c'est du noir et blanc, c'est ça dépote quoi. On termine avec OCS. Choc qui vous propose la énième diffusion de cet excellent film, le seul film je crois à ma connaissance.
Oula.
Où Steven est barbu.
Steven barbu.
Échec est mort, bien sûr.
J'ai pas vu,
de Bruce Mahmoud, Steven Seagal, Kelly LeBrock et William Sadler. Ben si, c'est le film au début, il se fait dégommer, donc il tombe dans le coma et tout. Et puis bon, quand il se réveille, il a une barbe de 4 mois. Il est là. il se rappelle plus de rien. Et puis il va essayer de se reconstruire par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Voilà, quoi. Et puis c'était avec la femme avec qui il était à l'époque, Kelly LeBrock. Mais très très bien, hein, vraiment. Hein.
Attends, on dirait que c'est un film d'auteur, là, comment tu le vends.
Ah non, non, avec William Sadler dans le rôle du méchant, laisse tomber, quoi. Et ce sera tout quoi pour cette semaine. Ouah, pile à l'heure, t'as vu?
Ouais.
On a donc réalisé un top 5 pendant cette émission. Donc on va le faire de suite hein, du coup, ce top 5.
Le top 5
de la longueur des pieds de ceux qui ont participé au supplément week-end de cette semaine.
Il y en a qui ont triché parce que moi je me suis enlevé des centimètres parce que... Ah mais c'est toi qui as le papier.
Bah d'accord, ok. Donc numéro 5 en termes de longueur, c'est, je crois que c'est Sushi pieds, avec oui. 23 cm.
On l'applaudit bien fort quand même.
Bravo.
C'est tu pourras faire mieux la prochaine fois.
C'est moi-même avec 25.
Bravo.
3.
En troisième, on a Thomas en 28. Non, du sport avec 26 cm.
C'est admirable.
Numéro 2.
On a du sport avec Thomas, pardon, avec 28 cm.
Ex-aequo.
Et en premier, on a ex-aequo Morgan, 30 cm avec notre invité. Voilà.
Je suis content, on a gagné quoi?
Et tu sais ce qu'on dit sur la longueur des pieds?
Je veux pas savoir. Voilà, c'était tout simplement parce que c'était une chronique assez lourdingue quand même de la BD, les pieds bandés.
Ouais.
Voilà. Mais t'as pas les pieds en lotus d'or, toi?
Non.
7,5 cm.
Et ça fait pas beaucoup.
Et c'est la longueur, pas la largeur.
Voilà.
C'est...
Ça fait peur. Hein, parce que quand tu mesures par rapport à.
On a mesuré
à
tout
ta
à l'heure, c'est pas grand chose.
Ouh, elles ont dû souffrir à l'époque, les femmes, hein, en Chine.
Le résumé?
Oui.
Le résumé, si vous avez manqué le début de l'émission, vous avez raté donc une interview d'auteur de manga saucisson. On a eu un guest de luxe qui a un peu participé à l'émission et tout, c'était Valentin Porte, que vous retrouvez dans Ça c'est du sport juste après nous. Du raid fromage, de l'inspecteur nazi, une chasse aux dragons, des animaux banquiers, des pieds pétés et des pointures au maître, une coloc à Paris, du cruise dans une super piscine, du Pascal Sevran au requin, de la géographie, du film de vampire qui tâche et qui fâche, et un chien jurassique.
Ça donne envie de réécouter.
Eh ouais, si cherchez bien, rien n'est faux, tout est vrai.
Comment on peut avoir des résumés pareils? Il y a un problème quelque part.
Et encore, j'étais soft.
Manqué tout ça, vous pouvez réécouter grâce à la diffusion différée tous les autres résumés, mais aussi l'émission en son entier. Mais aussi, vous pouvez consulter les chroniques réécrites, laisser vos commentaires, poser vos questions pour le courrier des auditeurs. N'hésitez pas, c'est facile. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, hommage à Margaret Thatcher, la guerre des Malouines avec Iron Man 3.
Yes.
Oh oui, d'accord, Iron Man, ouais, ok.
Pourtant, c'était écrit sur le conducteur.
Merci. Ah, bah ouais, moi je lis pas ton
merci
conducteur.
Merci à vous, même heure, même fréquence. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.